Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, bonheur, plaisir, passion vont donc naturellement accompagner cette émission à 19h-20h30. On va encore avoir un programme copieux et riche, on va vous gâter une nouvelle fois. Je vais saluer d'abord l'équipe qui m'entoure, après on saluera nos invités. Bonsoir Théo, ça va ?
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à tous.
Bon, tu nous as préparé un beau journal des sports.
Ouais, comme toujours, ouais. Très,
dans la boxe,
très copieux.
Hein.
Non, on y reviendra.
Bonsoir, l'homme des coups de cœur, coup de gueule. Stéphane, ça va ?
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à tous.
Bon, t'as eu que l'embarras du choix pour les coups de cœur.
Oui, j'ai eu l'embarras du choix, coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Franchement, c'était. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour faire le choix. Vraiment, tellement
d'accord.
C'était compliqué.
D'accord. Eh ben, au moins, on en parlait en off, on a eu un choix en commun, donc c'est bien. Voilà, bonsoir Marius, ça va ?
Bonsoir Philippe, bon, bonsoir tout le monde.
Belle semaine de foot, le Nord contre le Sud pour la finale
oui,
de Coupe de France.
Oui, juste avant une bonne semaine en Ligue des Champions.
Ouais, on en reparlera donc avec toi et puis notre ami Stéphane de Zanclos. Et je vais saluer mes invités. Deux sports pour le prix d'un. Donc aujourd'hui, on va d'abord commencer avec Christophe Triconnet, le président donc de la Ligue Île-de-France de billard. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Ça va bien, pleine forme ?
Très bien.
Ouais. Alors on reviendra un petit peu sur un sport. Nous, on parle de tous les sports. Un sport qui est un véritable sport. Hein.
Ah oui. Hein, c'est un sport de haut niveau.
Voilà, c'est ça.
Et voilà. Donc avec tous les critères du sportif.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, c'est un champion du monde. Eh oui, en personne. Hein, il est chez nous. Donc, c'est Aristote de Kituziza. Bonsoir, Aristote.
Bonsoir.
Ça va, pleine forme ?
Ça va très bien.
Champion du monde de kickboxing. Hein.
Oui, exactement.
Ouais. Alors, je crois savoir aussi que tu fais du full contact. Hein, aussi les deux. Mais enfin, là, tu es plus venu nous parler de ton prochain combat, de ta carrière.
Exactement.
Voilà. Et en même temps, tu es aussi arbitre de foot.
Exactement.
On peut se tenir tranquille, là.
Merci. Ouais.
Ah, sur les terrains. Alors, on va commencer donc avec Christophe. Christophe, ça vient comment, la passion du billard ?
Très jeune ? Ça dépend du parcours
café,
de chacun. Oui, là, et beaucoup ont démarré au café. C'était un sport très, très populaire dans les cafés. Mmh. La fédération a œuvré pour que le billard sorte des cafés et aille dans des salles privées.
Comme les fléchettes, un peu.
Un peu, oui. Ouais. C'était un peu l'ambiance je dirais plus sportive qui est ressortie. Et puis, moi, j'ai connu ça dans les années 80-90, où il y avait une ambiance familiale.
Oui.
Donc, on allait à la salle de billard pour...
Mais alors, au départ, vous faites du billard comme ça, parce qu'un jour, vous rentrez dans un café avec les copains, vous voulez faire un billard, et puis ça devient beaucoup plus sérieux, et vous dites, pourquoi pas faire de la compétition ?
Alors, la compétition, elle ne vient pas tout de suite.
D'accord.
Hein, d'abord, il y a l'entraînement, il y a la compréhension de la technique, il y a la compréhension de beaucoup de choses.
C'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin, pas faire que du billard comme ça, avec tes copains.
Oui, c'est un ensemble. Mmh. Ouais, ouais. Et on comprend vite la stratégie, l'obligation de se concentrer, l'obligation de...
Ouais, on va en parler parce que c'est hyper important.
Ouais. Ouais.
Alors, vous le débutez, donc comme ça, et puis vous arrêtez pendant un petit moment.
Alors, oui, moi, j'ai eu... j'ai démarré à 16 ans, j'ai fait à peu près 9 ans de billard.
Ah, quand même !
Et la carrière, la famille, fait que j'ai arrêté. Mmh. Et je suis revenu après Covid.
D'accord. C'est le Covid qui vous a dit il faut que je revienne.
Oui. Ouais. Oui, en fait, on se remet dans qu'est-ce qu'on a aimé. Et finalement, c'est une remise en question de qu'est-ce qui nous fait plaisir.
C'est vrai qu'il fallait utiliser son temps, le Covid. Si vous aviez un billard chez vous, c'était l'idéal pour...
Oui, tout à fait, oui. Et je suis revenu au billard donc, juste après le Covid, et là j'ai vu une nouvelle famille du billard où les salles se sont vidées dans pendant les compétitions.
Ah oui, bah oui.
Et là je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Mm-hmm. Donc je me suis engagé bénévolement à prendre des responsabilités au niveau de la Ligue, et puis je suis devenu président.
Oui, c'est ça, président. Comme ça, un petit peu par accident, emporté par les événements
Non, c'est une volonté, je dirais, de développer le billard, d'aider le billard à grandir et puis à communiquer le billard tel que je l'ai connu.
Mmh, d'accord. Voilà. Et ça a beaucoup changé
oui,
au niveau de l'état d'esprit
Non, l'état d'esprit, on est tous convivial. On a tous envie de partager quelque chose. Mais au final, on est moins nombreux. Les gens sont partagés avec les écrans, avec beaucoup d'activités que vous connaissez. Mmh. Et donc, finalement, c'est dur de les capter, les maintenir.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu aussi de l'évolution de ce sport. Hein. Je suppose que c'est un sport qui a énormément changé aussi.
Alors, c'est un sport qui évolue plutôt sur le 3 bandes maintenant, si on parle du carambol, donc le billard français.
On va bien détailler, parce que en préparant l'émission, on s'est aperçu, il y a 4.
Il y a 4 disciplines. Il y a 4 disciplines. Donc, on a la discipline reine, je dirais, la plus difficile, c'est le snooker.
Oui, c'est le billard anglais, c'est ça?
Non, le snooker.
Oui, le snooker, mais... J'ai vu
c'est la plus grande table, c'est 3,80
m. Mais c'était considéré comme du billard anglais, le snooker.
Oui.
Oui, c'est ça. Hein.
Mais quand on dit billard anglais, on a tendance à dire poule.
Oui. Alors, poule, c'est autre chose. Oui. Alors, parce que moi, j'ai vu billard américain, poule.
Oui.
Il y a du black ball. Il y a un billard poule dérivé du billard américain.
Oui.
C'est ce que je reprends dans les...
C'est-à-dire que c'est... aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le billard chinois, qui est le eight-ball.
Ah bon, ça c'est un cinquième qu'on n'a pas. Ouais, voilà. Billard chinois. Alors vous
donc c'est une table américaine qui est basée sur le ball.
Vous nous dites, le plus important, le plus populaire, le plus pratiqué, c'est le snooker.
Alors, c'est le plus médiatisé.
D'accord.
Le plus pratiqué, c'est le carambol, c'est le billard français. Mm-hmm. On a 65% de licenciés en français, et le reste au billard à poche.
C'est-à-dire, billard à poche?
Bière à poche, c'est l'américain, le snooker et le black ball.
D'accord, ok.
C'est quoi les différences pour essayer d'être clair, c'est quoi les différences précises?
C'est ce que j'allais demander,
précises,
mais c'est bon, vas-y, c'est bon. Ah ouais.
Le bière à poche, en règle générale, c'est mettre une bille dans une poche. Hein, voilà. C'est la règle dans classique.
Les,
coins, voilà.
Okay. Les tables ont les mêmes dimensions?
Non, le plus petit, c'est le black ball.
D'accord.
Après, c'est, on a
donc ce qu'on appelle le billard pool, dérivé du billard maker, c'est ça? Ouais.
Alors, le bien, oui, c'est le. Après, on a l'américain, qui est une table qui est à peu près la même taille que les bières français.
Oui.
Et on a le bière français où on a les bières match et demi-match. Là, on rentre dans les détails. Mm-hmm. Et on a le très grand billard qui est le snooker.
D'accord, ok. Et alors, les bières où il y a les trous sur le côté, là.
Donc, ça, c'est bière à poche.
Voilà, d'accord, ok.
Donc, il y a 3 disciplines en bière à poche. Black ball, américain et snooker.
Très bien, d'accord, ok. Alors, est-ce que donc la dimension, on l'a dit, des billards est pas la même?
Non, la taille des billes non plus.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mm-hmm. Et la feutrine?
Les draps, nous ce qu'on appelle les draps.
Oui.
Donc c'est pas les mêmes non plus.
Ah oui, donc, c'est vraiment. Ah, oui. Et sinon les queues, c'est les mêmes, non?
Non plus.
Ah ouais, c'est ça, je m'en doutais.
Waouh, trois types de billards différents,
Trois sports. Alors c'est trois sports différents, oui, effectivement.
Ah oui, c'est 3 sports différents, complètement. Ouais.
D'accord. Ça veut dire que, bon, on va parler du nombre de clubs, mais les clubs sont obligés de se spécialiser. Quand vous signez dans un club, impérativement, vous allez faire du billard anglais.
Non, j'ai un club qui a les 4 disciplines dans son club.
Ouf.
Bon. Donc voilà. Mais sinon, la plupart des clubs sont quand même sur le billard français.
Mmh.
Et d'autres sont sur du billard américain, et d'autres sont sur du black ball. Mais j'ai aussi un club qui réunit les 4 disciplines dans son club.
Et quand on joue au billard, on n'est pas obligé de se spécialiser. Vous pouvez passer d'un billard à l'autre, vous, non?
Ah oui, complètement.
Oui, oui. Ah oui, quand même.
Oui, oui, oui. Ouais. Moi, vraiment, en tant qu'étudiant, j'ai commencé au snooker.
Ouais.
Et j'ai découvert le carambol.
Mm-hmm.
Et j'ai pu arrêter le carambol.
D'accord, ok.
Quelles sont les règles, justement, du carambol par rapport au snooker?
Carambol, on n'a que 3 billes.
Ok.
Et donc, avec 3 billes, ça veut dire qu'on rend... Là, il n'y a pas de poche. Hein. C'est vraiment sans... Mm-hmm. Donc, le but, c'est de toucher, avec notre bille, les 2 autres.
D'accord.
Voilà. D'accord, ok. Donc,
on carambole les 2.
Et donc, ça fait un décompte de points. Et les parties durent en combien de temps?
Alors, c'est suivant le niveau, bien sûr.
Ouais.
Mais en règle générale, en 1h30, 1h40, on a fini une partie.
Mm-hmm. D'accord. Voilà. Quel est le type de billard le plus technique?
Ça, c'est un débat d'experts.
On essaie de répondre aux questions que l'auditeur
se pose. Je dirais que le billard français est le plus difficile à aborder par sa technique.
D'accord.
Okay. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas d'objectif clair. C'est pas une bille qu'on met dans un trou. C'est une conséquence d'enchaînement de coups.
D'accord. Donc ça veut dire que, alors, pour être clair et concis, si on commence une partie, ça se passe comment?
Alors, à quel
type de billard? Le billard dont nous parlions.
Dans tous les cas, toutes les disciplines, il faut choisir qui commence.
Ouais.
Donc, il y a ce qu'on appelle le tirage à la bande.
D'accord.
Donc, chacun envoie une bille sur une bande opposée, et c'est celui qui finit au plus près de la bande du côté où il est.
D'accord. Là, déjà, c'est clair. Okay. Ouais.
Voilà.
D'accord. Alors, parlons par exemple du billard français.
Oui.
On commence une partie. Comment ça se passe?
Donc, celui qui gagne le tirage, il décide s'il commence ou pas. On met les billes sur la position de départ. Donc, il y a des repères sur le billard. Et le joueur joue son premier point.
D'accord. Et il y a combien de joueurs dans le match? Deux, ou on peut jouer contre
c'est
trois,
un contre
quatre
un,
d'accord.
Ou alors, il y a des parties en équipe.
Oui.
Et dans ce cas-là, si on parle de scotch double, on est en double. Et puis après, on a des parties où on est toujours un contre un, mais en équipe, où on peut être trois dans l'équipe.
Ah ouais. Waouh, je suis déjà perdu là.
C'est un peu comme du coup de l'escrime, c'est-à-dire qu'on est en équipe, mais on
fait
la partie
chacun,
en un contre
chacun
un,
fait sa partie.
Ça,
ah oui, d'accord.
Voilà. C'est dans ce sens-là.
Voilà, c'est ça, on marque des points à chaque fois.
L'équipe,
ouais. Et comment on se fait le décompte des points?
Alors, on a un objectif de points, et suivant la catégorie qu'on a, notre niveau, on doit atteindre cet objectif.
D'accord. Donc, vous le dites, ça dure à peu près une heure et demie un match.
Oui, oui.
Oui. Et après, les autres types de billard, donc le snooker, par exemple, ça se passe comment?
Snooker, le tirage, c'est le même. Après, le snooker, c'est un ensemble de billes rouges et un ensemble de billes de couleur.
Oui.
Et donc, vous devez rentrer d'abord une rouge pour pouvoir rentrer une couleur.
D'accord. OK. Et ça fait un certain décompte de points.
Et ça, c'est pareil, on compte les points en fonction de la valeur des billes.
D'accord. Et on a un record de points?
Non.
Ah. Ouais.
Je ne suis pas le grand spécialiste, mais je vais dire une bêtise. Donc, oui, il y a un record, je crois que c'est 153 de mémoire.
Renio Sullivan, le GOAT de la discipline.
Ouais. Ouais. Alors ensuite, on a donc le backball.
Oui.
Alors, ça se passe comment?
Donc là, c'est les billes rouges et jaunes.
D'accord.
Avec une noire. Ouais. Donc, chacun a choisi sa couleur et doit rentrer l'ensemble de la couleur et finir avec la noire.
D'accord. Là, c'est le plus classique auquel
c'est ce
on pourrait
que vous
jouer
dans
les cafés.
Cafés
quoi.
Ouais, général,
c'est,
ouais.
Ça okay. C'est ça. Ah, bah, t'as joué alors, toi, déjà, non?
Je très mauvais, mais c'est celui-là que je jouais de temps en temps. Quoi. Donc,
et après, il y a le billard américain.
Et le billard américain, c'est les billes avec les numéros.
D'accord. OK.
Et donc là, vous avez le jeu de la 8, le jeu de la 9 et le jeu de la 10. Et la 14 contre 1.
D'accord. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut jouer à n'importe quel type de billard. On n'est pas obligé de se spécialiser, hein, faut bien le dire.
Non, mais de toute façon, vous rentrez dans un club.
Oui.
Le club, je prends celui qui a les 4 modes
de jeu. Oui, par exemple, vous rentrez dans un club. Bon, voilà. On prend déjà une licence, ça coûte combien déjà?
Une licence, c'est 80€ à peu près.
D'accord, 80€. Après, on a des séances d'entraînement. On a le type de billard qu'on veut
Ah oui, complètement.
Oui, d'accord.
Dès que vous êtes licencié, vous avez le droit à accès à tous les modes de jeu.
D'accord.
Toutes les disciplines.
Vous, dans votre salle, vous avez toute
l'ordre de billard. Alors moi, je suis dans un club où il n'y a que du français.
Ah, voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas tous les...
Voilà, mais moi, je ne joue qu'au français, donc ça me va bien.
D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, s'ils veulent varier, ils viennent pas chez vous, alors.
Je reçois, parce que je donne des cours aussi tous les samedis.
Oui, c'est bien ça.
Et donc, je reçois des débutants. Et je reçois des gens qui veulent avoir des cours de billard, mais qui ont une affinité plutôt billard américain.
D'accord.
J'ai deux personnes qui sont venues au mois de septembre en étant... moi, je veux me progresser au billard, donc je joue qu'à l'américain. Nous, on n'a que du français, donc j'ai appris à jouer au français. Aujourd'hui, ils ne veulent plus retourner à l'américain, ils préfèrent le français.
D'accord. Donc eux, ça veut dire qu'ils se spécialisent quand même.
Ah oui, non, mais ils ont trouvé ça beaucoup plus riche.
Forcément, par la force des choses, ouais. Ils se spécialisent. Alors, en préparant l'émission, j'ai lu, il y a une façon de...
De limer, de donner le coup de cœur.
Oui.
Oui, il y a plein de... Ouais. Je dirais que la technique, c'est un peu similaire au golf.
Oui.
Voilà. D'accord. Donc, on vise avec le corps, on vise jamais avec les yeux. Donc ça, c'est une priorité.
Ouais.
Et l'autre chose, c'est qu'on joue sur le côté.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu,
Voilà.
Ouais, on se met, on peut, ouais.
Non, mais quand je dis on joue sur le côté, c'est-à-dire qu'on regarde
oui.
à côté de la bille et c'est la tête qui tourne pour regarder la bille. Comme au golf.
Ah ouais, c'est
voilà. technique ça.
Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que ça, c'est des heures et des heures de travail.
Ah.
Ouais, pour acquérir ça, tout ça.
Oui, oui. Après, on parle de mémoire musculaire. Mm-hmm. Mémoire musculaire, c'est 10 000 gestes.
Mm-hmm.
Donc tant que vous n'avez pas fait 10 000 fois, vous n'avez pas la mémoire.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est là où on dit que c'est vraiment très proche du golf finalement.
Ouais.
Répéter un nombre incalculable de fois pour avoir le geste.
C'est parfait. Ouais. Ah ouais.
Et vous avez combien de clubs en Ile-de-France, justement, vous qui êtes
là,
maintenant le
président? Là, on a 47.
Président. 47 quand même,
ah ouais.
C'est bien.
Ah oui, c'est très bien. Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Et quel est le l'arrondissement ou le département où il y a le plus de clubs?
Alors
club
là quand j'entends arrondissement...
Sur Paris déjà?
Je me dis Paris, Paris ouais. est pauvre. Paris, ah, on a deux clubs.
Ah bon? Ah, d'accord.
Ouais,
deux clubs seulement?
Ouais. Ouais. Je suis surpris, ouais.
Ah ouais,
deux clubs de compétition, ouais, ouais. Alors c'est où?
Alors c'est au Halles.
D'accord.
Et sur la Nation.
Bon, ok. Il n'y a que deux clubs.
Ah oui. Ah ouais. Ouais, parce que la surface est chère.
Eh oui.
Nous, on est très consommateurs de surface.
Eh oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, donc, les autres arrondissements
Après, il faut aller proche de Paris.
Oui. Mmh.
Donc, il faut aller sur, à Saint-Maur, à Maison-Alfort, à Châtillon, à Clichy.
D'accord.
À Courbevoie.
Ouais, ça va, donc Haute-Seine, Val-de-Marne, donc,
voilà, ça c'est proche de Paris.
Mm-hmm.
Après, le département qui a le plus de clubs, c'est les Yvelines.
D'accord.
Okay. Qui a 10 clubs.
10 clubs dans les Yvelines.
Ouais. Celui qui suit, c'est Seine-et-Marne avec 9 clubs.
Mm-hmm.
Et puis après, 91, 80, 93 est pauvre. Et 95.
D'accord. Mmh. Donc, c'est mixte, je suppose, comme sport.
Alors, c'est mixte. Les femmes viennent de plus en plus.
Oui.
Je crois qu'on en a 158 en Ile-de-France.
Ah, ouais, bien.
Voilà.
Et les compétitions, elles sont mixtes ou c'est aussi des compétitions
alors,
femmes
De base, les compétitions sont mixtes.
Mmh.
Il n'y a pas de
oui, bah là, c'est,
y a pas de gens pour pouvoir jouer
là,
bien.
Hein. Là, ça fait vraiment partie des sports où il ne peut pas y avoir de différence sur le plan physique, quoi.
Ouais, voilà, mais on fait des compétitions spécifiques féminines.
Oui.
Mmh. Voilà, c'est une question aussi d'échange entre elles.
Oui.
Et puis ça permet de les valoriser aussi dans
Et les tranches d'âge. Alors, quand on fait une compétition, il n'y a pas de catégorie d'âge ou alors on peut.
Alors,
on
si,
peut
si,
avoir
on a les jeunes.
5 ans et jouer si, contre si, un jeune de 20 ans.
On a les jeunes.
Oui.
Mais on a très peu de jeunes finalement, surtout au carambol. Le bien rapproche sort beaucoup mieux.
Mmh.
On a 85 jeunes hein, sur l'île de France. Mais c'est toujours pareil. C'est avoir des jeunes, c'est une chose. Les avoir au même endroit, c'est différent.
Mmh.
Et le problème, c'est de pouvoir les avoir au même endroit.
Ah oui.
Voilà. Mmh. Et avec la logistique, le transport et la durée de la compétition.
Oui, on va parler des compétitions. Aristote, le billard, ça te plaît? Non? T'as fait comme ça une fois, comme ça pour.
Oui, j'ai déjà essayé. Et moi, parmi tout ce qu'il a dit, j'ai fait le plus simple. Taper dans la boule et qu'elle touche l'autre boule et qu'elle rentre. Voilà.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est plus simple à comprendre, en fait.
Mmh.
Ouais.
Mmh. C'est surtout ça, ouais. Et ça conviendrait à quel type de billard par rapport à ce qu'Aristote aurait décrit?
Lui, il a dû jouer au pool, oui.
D'accord.
Ah, oui, au black ball.
Mmh.
Ouais. C'est jaune et noir. Ouais.
Voilà,
enfin,
exactement.
Jaune et rouge. Ouais. Ouais.
D'accord.
Alors, quand on commence le sport, c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire, tout de suite, bon, moi qui n'ai peut-être jamais joué au billard, si j'arrive... Tout de suite,
je fais un petit coucou à Roman, qui a 9 ans, qui a 2 ans de billard.
Oui, et déjà qui arrive à un certain niveau.
Qui va faire une compétition avec l'Île-de-France en un challenge interligue jeune à Ronchin.
C'est bien.
Voilà, le 15 et 16 mai. Donc elle est prise dans l'équipe. Et, enfin, voilà, donc elle a commencé à 7 ans.
Ah ouais, c'est bien.
Et je fais un coucou à Pierre, qui se trouve à Maison-Alfort.
Mmh.
À 92 ans.
C'est bien, 92 ans.
Wow.
Ah non, c'est bien, c'est bien.
Alors, les deux peuvent jouer sur la même table et en même temps.
Alors, justement, ça demande une très, 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 très grande concentration. C'est ça qui fait la différence.
C'est
pour faire
vrai...
le vide complètement, il faut être carrément dans
alors,
ça.
Ça, c'est un vrai truc d'aujourd'hui, c'est que ça oblige à se concentrer.
Ah oui, ah oui. Ça doit être la
les Anglais disent qu'il faut être focus.
Ouais.
Voilà. Et alors, pour les jeunes, c'est formidable parce que c'est un sport qui vous apprend la concentration.
Mmh. Et j'imagine. Ouais. Et comment est le public autour?
Le public des
il
années 80-90.
Ah,
ça, c'est un grand sujet aujourd'hui.
Eh oui.
On a je vais pas rentrer dans tout ce que je connais, mais
ouais, dis voilà, il y a pas de problème, vous pouvez tout dire.
On a une culture du silence.
Ouais.
Mais les générations d'aujourd'hui, ils veulent du bruit. Hein.
Ouais.
Voilà.
Ça me rappelle un autre débat sur le tennis.
Oui, c'était pareil. J'allais le dire, le tennis était beaucoup plus silencieux à une certaine époque. Maintenant, il y a une génération qui.
Oui, et puis ça dépend du pays.
Oui.
Vous allez en Hollande, ça crie. Hein.
Ah oui.
Il y a du bruit.
Ouais. Ah, comme les fléchettes.
Ouais. Ah, oui.
C'est des cultures différentes peut-être.
Ouais. Ah oui, ça crie. On aurait plus cru les Latins peut-être, les Italiens, les Espagnols, peut-être un petit peu.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Ouais.
Non. Mm-hmm. Non, la. Je dirais la Belgique est plus conviviale.
Oui.
Les Hollandais, c'est vraiment bruyant. Et puis en France, c'est l'église, hein, c'est cathédrale. Hein.
Alors, justement, avant de rentrer donc autour de la table, entre concurrents, on est comment ? On doit y avoir un peu d'intox quand même.
Entre concurrents ?
Oui.
Le seul adversaire, c'est vous-même.
Ah. Ouais, c'est une belle phrase.
C'est une bonne réponse. Ouais.
Parce que la seule chose, c'est quand vous êtes sur la table, vous êtes tout seul.
D'accord. Mais il n'y a pas à côté un peu d'intox
Ah, il y a toujours qui essaye.
On vous regarde jouer fatalement. Donc,
oui, il y a toujours qui essaye, mais c'est un combat avec soi-même.
Mm-hmm. Et ça ouais. C'est des années et des années de boulot, quoi.
C'est surtout des années de connaissance de soi.
Ouais. Ah, mais oui, mais alors il faut un coach pour ça.
Ah, certains, oui. Ah, oui, il y a certains qui ont des coachs. Hein. C'est un vrai travail de soi. Hein. Mm-hmm. C'est un travail intérieur, hein, le billard. Hein.
Alors, ceux qui viennent s'entraîner, c'est un sport individuel, donc ils s'entraînent comme ça, les coups.
Alors, c'est l'avantage
entre eux,
de sport.
On peut parler, on a un entraîneur, ah, ouais, on a un président, on peut parler.
Ouais,
on peut...
Complètement.
Oui.
Et c'est le gros avantage de sport, c'est qu'on peut s'entraîner tout seul,
oui,
imaginer des choses tout seul, mm-hmm, continuer, et en même temps aller dans un club et partager tout ce qu'on connaît.
Mm-hmm.
Et je dirais, il n'y a pas beaucoup de sports comme ça, où on peut... dire « Tiens, j'ai vu un truc, je vais l'essayer.
Mm-hmm. » Et vous, c'est ce qui vous plaît dans ce sport ? C'est ce qui vous a plu tout de suite ?
Oui, alors moi, c'est la découverte et la richesse du sport.
Bah, c'est sûr qu'on pourrait faire quatre.
Ah, c'est vraiment une grande richesse où il y a plein de choses et de connaissances de soi, mm-hmm, qui arrivent au fur et à mesure, parce que quand vous montez en niveau, bah, il faut bien trouver des choses qui vont vous faire performer encore plus.
Mm-hmm.
Et moi, j'étais arrivé à un niveau où je savais que l'adversaire avait le même niveau que moi, techniquement.
Oui.
Et la seule différence, c'était ce que j'avais dans la tête.
Ah ben voilà, c'est ça. C'est le mental, c'est le coaching.
Ah oui.
Un petit peu
la gestion des émotions.
Oui, ouais, c'est pour ça. Quand des fois, j'entends... Il y a des gens qui se demandent si le billard est un sport. Mais ce que je vous dis, je pense qu'on l'a dans tous les sports.
C'est pareil si on fait du badminton sur la plage et après en compétition. Ou pareil pour le tennis, c'est le tennis de table. C'est pareil, hein, je veux dire... Si on joue comme ça dans son jardin, c'est pas pareil que si on va faire la compétition. C'est pareil pour le badminton, si on fait de la plage.
Ah oui, voilà,
c'est pareil pour votre et pareil pour la pétanque. Hein.
Ah bah, c'est ce que vous ressentez.
En fait, ça fait partie, d'après moi, dans le débat, parce que c'est des sports beaucoup plus mentaux que physiques, intrinsèquement. Et je pense en disant ça, notamment aussi aux échecs, où certains considèrent évidemment ça comme un sport, tellement il faut être, comme vous dites, focus, concentré sur soi, parce que c'est une erreur et c'est foutu. Quoi.
Je vais vous donner l'exemple, les masters qui jouent en 400 points. Le premier joue, il fait 400. Le deuxième, il doit se lever. La seule chose qu'il doit faire, c'est 400 et égaliser.
Oui, sinon, il a perdu directement.
Voilà.
Mm-hmm.
Ouais, donc, évidemment, on est sur un contexte mental compliqué. Quoi.
Ah bah, c'est une obligation de réussite.
C'est un coup KO, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et justement, il y a un classement, un petit peu, type golf ou tennis. Il y a un classement individuel.
Alors, il y a des catégories. Donc, on va des masters, après National 1, National 2, National 3, Régional 1, Régional 2, Régional 3, Régional 4.
Donc, ça, c'est en fonction des compétitions qu'on gagne ou.
De la moyenne que l'on fait.
De la moyenne que l'on fait.
Ouais, la moyenne, c'est le nombre de coups qu'on fait par reprise, mm-hmm, sur le billard carambole, hein, je parle.
D'accord.
Mm-hmm. Et moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez donné comme information tout à l'heure, comme quoi le snooker était le plus médiatisé dans le billard.
Oui. C'est là où il y a le plus d'argent.
Entre autres. Mais je vais poser somme toute une question très très naïve, puisqu'on connaît, pour ceux qui suivent le billard, on connaît beaucoup Ronnie Sullivan.
Mais pose une question naïve.
Oui,
on est là pour les auditeurs.
Oui, voilà. Justement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Français encore ? Parce qu'on voit des Chinois, on voit des Anglais. Est-ce qu'il y a des Français qui performent au même niveau international ?
Alors, au même niveau, on a des Français. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de faire les mêmes tournois et au même niveau avec les... Non, ils les ont pas. Ils ont pas les sponsors, ils ont pas les, ouais, les frais de déplacement. Ça. Ils ont.
Ouais. Quel éternel problème,
choses
qui, quoi.
Qu'ils peuvent pas faire.
Ouais, ouais.
Mais sur le plan sportif, c'est ça, parce que j'essaie en fait de faire le parallèle avec les frères Lebrun qui, eux, se sont imposés par la force des choses parmi les références mondiales au milieu de toute la colonie chinoise dans le tennis de table. Mais
moi si je reviens sur le 3-bandes, qui est quand même la discipline française, carambole, qui est en train de performer au niveau mondial, on a Jérémy Bury, 10e joueur mondial. Personne ne parle. Enfin, moi, je connais le milieu, donc ça va. Mais,
oui.
Mais
oui,
je pense que personne n'en parle.
Ouais, ouais. Moi, j'en connais deux. Oui. Deux anciens. Connaisson et Reverchon.
Ah oui. Francis et, oui, et Jean.
Oui. Ils sont encore en activité ?
Oui, bien sûr.
Oui. Et c'était quoi leur...
Francis, il a joué à la boule là, sur la finale nationale, finale de France en équipe division 1.
Ouais.
Voilà. Bon, il n'a pas fini premier, mais il a joué.
Mm-hmm.
Les gens également, il a joué.
Oui. Alors, je crois que j'avais rencontré Reverchon qui jouait un jour qui faisait une démonstration pour le Téléthon. C'est comme ça que je l'avais rencontré.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Ah, toujours, il est en région parisienne.
Oui, oui, c'est pour ça que je l'avais rencontré.
Président du club de Morangis.
Oui, c'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est vieux et je sais que c'était impressionnant. Il avait fait passer une boule au-dessus d'une autre.
Ah, ça, c'est pas mal, ça.
Ah ouais, ouais. C'était la démonstration au Téléthon.
Ah
ouais.
Ah ouais. Donc, ouais.
Alors, justement, quels sont les pays qui dominent ce sport ? Les Américains ?
L'Asie.
L'Asie.
Ouais, l'Asie, ouais. L'Asie est un fief, un réservoir énorme.
Mm-hmm.
Corée du Sud, Vietnam.
C'est-à-dire que là, comme disait un petit peu Stéphane, bon, il y a des partenaires financiers, donc on peut en vivre facilement, quoi. Il y a des sponsors, on peut, voilà.
Bah, il y a ça, et puis oui, il y a un développement. Si vous voulez, sur le circuit carambole, on a les World Cup ou les gains pour un Vietnamien. Si on compare un gain pour un Français, il y en a un, il a 3 ans pour vivre, et le Français, il a peut-être 6 mois.
Ouais.
Ouais, oui.
Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ratios de gains. Pourtant, c'est le même gain, mais au niveau de vie, c'est pas du tout la même chose.
Ouais.
Donc ça peut expliquer aussi l'engouement.
Ouais, bien sûr. Et sinon, les grandes compétitions, ça commence quand, une saison, et ça se termine quand ?
En général, les compétitions, on les commence au mois d'octobre, et là, on est sur les périodes de finale, donc on arrive à la fin. Là.
D'accord. Ok. Les grandes compétitions, c'est quoi ? C'est des internationaux ? C'est des...
Ça commence
un petit peu comme au golf,
les catégories,
ou alors il y a
des
championnats du monde, des championnats d'Europe, championnats de France ?
Il y a de tout. Il y a de tout, mais ça dépend du niveau.
Oui.
Si vous êtes une petite catégorie ou non classée, vous démarrez, bah vous allez faire des championnats de département.
Mm-hmm.
Et puis si vous êtes champion du département, vous allez pouvoir faire une finale de ligue.
Mm-hmm.
Et puis, suivant les catégories de finale de ligue, ça vous emmène sur une finale de France.
D'accord. Ouais. Et voilà. Vous, vous organisez beaucoup en Île-de-France d'épreuves, de compétitions ?
Ah oui, il y a quand même beaucoup. Ouais. On arrive sur... on doit avoir 70 compétitions dans l'année, à peu près.
Ah bah, c'est correct. Ouais. Mmh.
Voilà. Et est-ce qu'un joueur de billard professionnel arrive à en vivre ?
Difficile. Ouais,
ouais, difficile.
Ah ouais, difficile.
Et qu'est-ce que la fédération pourrait changer pour aider justement les meilleurs joueurs de billard en France à pouvoir vivre
C'est une grande question, ça.
Ouais.
Bah, il faudrait plus de sponsors, tout simplement, et plus de médias.
Donc plus de médias. Alors, vous savez que je préparais l'émission et j'ai vu que chez nos amis de Sport en France, ils ont montré du
Black Ball. Et
oui.
Puis,
ça tombait très bien. Je prépare l'émission.
Ils le font souvent.
Et Sport en France. Hop,
on essaye de médiatiser un maximum et surtout les finales de France.
Il y en a eu sur Canal à une certaine époque, hein, sur Canal Plus.
Ah, c'est vieux.
Ah oui, je sais que c'est vieux.
C'est les années 90.
Oui, je sais.
Ouais, c'était où ils montraient l'artistique.
Oui.
Et puis il y a le snooker qui est toujours diffusé sur Eurosport, encore aujourd'hui.
Oui, c'est ce qui fait la clé. Hein.
C'est ça.
Ouais. Ah, oui. On termine comment après une partie ? On est complètement lessivé psychologiquement ?
Alors, une seule partie, peut-être pas.
Oui, oui, enfin, quand j'ai un match ou une compétition.
Mais typiquement,
quoi.
Moi, quand je mets des tournois, on a jusqu'à 5 matchs dans la journée.
Wow.
Donc, on a commencé à 8h30, ouais. On a fini à 20h. Ouais, on est content de rentrer.
Ah, bah oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Parce que c'est de la concentration, tout
le monde. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui ont une préparation physique parallèle quand même ?
Bah, ça oblige.
Ouais, ça oblige.
Ça oblige. Si vous voulez faire partie du haut niveau, vous êtes obligé.
On est obligé de faire attention à ce qu'on mange, et à ce qu'on boit.
On peut faire vraiment le parallèle avec le golf.
Oui.
Où on a connu le golf dans les années 70-80, où bon, bah, physiquement, c'était, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Et puis Tiger Woods a tout changé.
Ah ouais.
Et je dirais qu'aujourd'hui, vous regardez les Asiatiques, mm-hmm. et vous changez la donne.
Mm-hmm. Ouais. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous soyez sport olympique un jour.
On a essayé.
Eh oui, je sais bien.
On a essayé.
Eh oui, je sais bien.
La France avait eu la chance d'avoir Paris comme étendard. Et dans ce cas-là, la France avait la possibilité d'offrir des places.
Pour de démonstration, c'est voilà. Ça. Hein. Ouais.
Voilà, d'offrir des places. Et la Fédération française a bien essayé de se présenter, n'a pas réussi. Voilà.
Ouais. Et c'était quoi l'argument? Peut-être pas assez de pratiquants, peut-être.
Alors, le calcul est plus technique. Oui, c'est, oui. C'est que c'est un nombre de pratiquants au niveau des pays.
Oui. Ouais. C'est pas assez, ouais.
Ouais, c'est au niveau des pays. C'est le nombre de pays représentés pour être représentant. Donc. Mm-hmm. Et la problématique aussi, c'est le nombre de certitudes sur le champion du monde. On a certaines catégories où on a plusieurs titres de champion du monde.
Ah, c'est possible, ça?
En boxe, ça se fait. On en reparlera tout à l'heure, mais en boxe, ça se fait.
C'est ça.
Ouais, mais
et donc, du coup, quand on n'a pas un champion identifié,
plus difficile. Ça, c'est pas un avantage. Ouais, hein. Ça, c'est pas un avantage. Parce que le grand public, il a besoin d'un point de repère. Quoi. Il a besoin d'avoir un... Qui est le meilleur, quoi.
Voilà. Ah ouais, mais ça, c'est
qui
toujours...
Qui est le plus beau, qui est le meilleur. C'était un petit peu le problème de la boxe, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'était... Voilà, qui est plus beau. Si on veut faire donc ce sport, est-ce que ça coûte cher? Et où est-ce qu'on trouve le matériel?
Alors, ça coûte pas si cher que ça si c'est une salle municipale, parce que bon, la licence, elle est à 80 euros.
Mais l'équipement, la queue, par exemple.
Ouais, la queue, à partir de 100, 150 euros, vous avez une queue.
Ouais. Et on fait combien de temps?
C'est si cher que ça?
Ouais. On fait la saison?
150 euros, c'est le prix de départ.
Ah, d'accord. Ouais. Mais justement, comment se fait-il que le prix de départ soit aussi élevé? Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit
aussi élevé. Il faut demander au fabricant,
oui. Ah, d'accord.
Ça doit être maintenant, ça a dû beaucoup changer dans l'évolution.
Dans les matériaux utilisés, peut-être, mais...
C'est le marché d'aujourd'hui. Et on sur les queues, j'irai haut de gamme, on est passé des queues entre 1 1500 euros à 3000 euros.
Oh là là.
Waouh.
Et alors, vous en trouvez partout, là, où il y a des magasins spécialisés
Alors, on a des plateformes spécialisées.
Oui.
On a moins de magasins physiques, un peu comme tout le monde, je dirais. Mm-hmm. Et ça a un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tester le matériel.
Oui.
Voilà, donc vous devez faire confiance à celui qui connaît.
Et quand vous avez une queue, c'est toute l'année. Vous pouvez en avoir plusieurs, un petit peu comme la raquette ou comme...
Alors moi, j'en ai 3-4, mais... Oui. Mais c'est des affinités parce qu'on a plusieurs disciplines, enfin plusieurs modes de jeu. Donc du coup, on adapte notre mode de jeu avec une queue. Voilà.
Moi, j'ai une question très très bête. Mmh. Est-ce que ça sert vraiment le petit dé bleu là qu'on voit il frotte au bout.
Ah,
là.
La craie.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est plus de l'aide psychologique ou quoi?
Alors, c'est pas du tout psychologique.
Ça aide vraiment à mieux accrocher.
C'est simple, hein, c'est qu'on a un procédé. Donc le procédé, c'est le bout de la queue qui est en cuir, qui est un peu bombé, et on touche une surface ronde, qui est la bille. Et donc, quand on met de l'effet, donc ça veut dire qu'on va viser sur le côté de la bille, donc on va toucher la partie la plus arrondie. Mmh. Et si on ne met pas de bleu dessus, le cuir va glisser dessus.
Ok, donc c'est pour mieux accrocher.
La craie permet d'accrocher.
Ok. Voilà.
Alors, pour finir, est-ce qu'il y a une tenue réglementaire quand on est en compétition?
Oui, il y a un polo obligatoire.
Oui. Voilà, aux couleurs du club, non ou...
Ah, aux couleurs du club. Oui. Alors, quand on joue en individuel, c'est à la limite, le plus important, c'est l'écusson.
Oui. Voilà. Et on peut avoir son partenaire, si on en a un partenaire privé, sponsor. À l'autre côté, d'accord.
Ouais. Ouais. Si, côté gauche, c'est l'écusson, et côté droit, on a le droit d'avoir les partenaires.
D'accord.
Et sur les épaules aussi.
D'accord. Sinon, on peut venir en short, en jean, en basket.
Non, mais short et jean interdit.
Oui.
Ouais, c'est pantalon. Le pantalon obligatoire et chaussures, j'irai unis, obligatoire.
D'accord.
Et après, si on joue en équipe, il faut que toute l'équipe soit habillée pareil.
Ah oui, bien sûr, ça paraît logique.
Mais c'est comme sur un terrain de foot.
Oui, bien sûr.
S'il y en a un qui, à part le gardien.
Très bien. Allez, Théo, on enchaîne maintenant sur l'actu sportive de ce week-end.
Et allez, on ouvre ce journal des sports par un record historique.
Quel record.
Allez, bon, si je vous dis 1h59 59 minutes et 30 secondes, ouais, je sais, vous osez pas le croire. Eh bien, si, hein, Sébastien Sow, un Kényan de 31 ans, passe sous la barre des 2 heures lors du marathon de Londres ce week-end. Bah, ça n'était tout bonnement jamais arrivé, donc historique. On poursuit avec le classique Liège-Bastogne. Liège qui a donné lieu à une magnifique bataille. Tadej Pogacar s'impose juste devant le français Paul Sexas, impressionnant, hein, qui n'a jamais lâché le Slovène. Paul Sexas, justement, lui, poursuit sa montée en puissance grâce à sa victoire en patron, hein, sur la flèche wallonne de mercredi dernier. Du tennis maintenant, avec une bien mauvaise nouvelle, hein, pour Carlos Alcaraz, qui est d'ores et déjà forfait pour Roland-Garros. L'Espagnol ne pourra pas défendre son titre après sa blessure sur l'ATP de Madrid. En MotoGP, l'Espagnol Marquez s'impose devant son public et devance les Italiens Bessecchi et Gianantonio. Sébastien Ogier remporte, lui, le rallye des Canaries et remonte à la 6e place au classement pilote. Un classement toujours dominé par l'anglais Elfyn Evans devant Takamoto Katsuta et Sami Pajari, trois pilotes Toyota.
Et notre ami Fourmo a terminé 5e, je crois.
Exactement. On passe au rugby maintenant et la suite du tournoi des 6 nations, hein, pour nos Bleus. Victoire 26-7 samedi face à l'Irlande. Les Français sont toujours premières à égalité avec l'Angleterre après 3 journées. Prochain match samedi 9 mai face à l'Écosse. Et en top 14, 22e journée, victoire 59-10 du Racing 92 sur Montauban. Succès également du Stade français 34-32 à domicile face à Pau. Au classement, le Racing est 7e et le Stade français aux portes du podium en 4e place. On file sur les parquets maintenant et Monaco qui arrache la dernière place en play-off d'Euroleague grâce à sa victoire 79-70 face à Barcelone vendredi. Les Monégasques affronteront l'Olympiakos en quart de finale. Bourg-en-Bresse remporte le match aller de la finale d'Eurocoupe 72-60 face au Beşiktaş. Le match retour est à suivre demain dès 19h30. Et ce week-end, on avait aussi beaucoup de basket. Hein, les finales de Coupe de France de basket justement à Bercy. Basket Lente remporte son 3e titre en dominant Villeneuve-Dasque 77-65. Chez les hommes, Monaco remporte le titre seulement 24 heures après sa qualification en Euroleague.
24 heures, c'est fabuleux.
Une victoire 87-83 qui s'est jouée dans les dernières minutes face au Mans. Allez, handball maintenant et la 25e journée de championnat. Victoire du PSG 34-31 face à Cesson-Rennes. Tremblay s'incline à domicile 37-34 contre Limoges. Au classement, Paris toujours en tête, 2 points devant le HBC Nantes. Tremblay est 8e. Et Metz et Brest qui continuent, hein, leur parcours. Ils ont atteint, pardon, le dernier carré de Ligue des Champions féminine. Les Messines ont dominé Ferencváros 31-31 puis 31-28 à domicile. Les Bretons ont remporté leurs 2 matchs face au Gloria Bistrita, 35-36 puis 36-30. Alors le tirage au sort, c'était aujourd'hui à 15h. Brest affrontera Győr et Metz défie le CSM Bucarest en demi-finale donc. Et 21e journée de championnat féminin, le Paris 92 s'incline 31-28 face à Dijon. Défaite également de Stella Saint-Maur 28-24 face à Hachenheim. Au classement, le Paris 92 est 9e et Stella Saint-Maur chute à la 12e place. Et comme souvent, on referme ce journal des sports par du volleyball. Fin de parcours malheureusement pour le Paris Volley, vaincu par Poitiers 3-2 en demi-finale du championnat. Alors les Parisiens s'étaient inclinés 3-0 lors du premier match. Et l'autre demi-finale est largement remportée par Montpellier 3-0 face à 7. Donc Poitiers-Montpellier en finale de championnat. Et chez les femmes, le premier match de cette finale, Mulhouse-Levallois-Paris, est remporté par le VMA. Pourtant mené 2-0, les Mariannes se sont rebellées et ont poussé Mulhouse au tie-break. Défaite 3-2 dans cette première manche. Mulhouse recevra donc pour le titre de championne de France ce vendredi 1er mai.
Ouais, c'était la finale qui était annoncée quand même.
Exactement.
Hein, chez les femmes. Bon, Stéphane, ton coup de cœur, coup de gueule.
Oui, eh bien, mon coup de cœur cette semaine, bah, il est consacré donc à cette demi-finale de Coupe de France entre Lens et Toulouse. Puisque, bah,
dans quelle image.
C'était une super image d'ailleurs, cette fin de match. Je reviens vraiment dessus parce que c'est une belle liesse populaire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Surtout que ça soit passé de cette manière, dans une ambiance si bon enfant, franchement, c'était vraiment une très très belle image. Hein. Pour rappel, Lens s'est imposé 4-1 face à Toulouse et rallie ainsi donc le Stade de France pour la finale de la Coupe de France. 3-4 jours plus tôt, si je n'ai pas de bêtises, ils avaient déjà battu Toulouse, mais dans un scénario encore plus fou, puisqu'ils étaient menés 2-0 en championnat avant de revenir à 3-2 dans les arrêts de jeu. Et de voir justement, lors de ce match de Coupe de France, quasiment l'intégralité du stade Félix Bollaert sur le terrain fêter la victoire avec les joueurs dans une si belle ambiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En général, on voit ça On voit
quand
ça
on n'est pas content.
Quand on n'est pas. Alors, si, ah ouais. ça arrive quand on est content. Si, ça arrive. Ouais,
Nantes,
par exemple, quand il y a.
Une année, c'est arrivé.
À Nantes, c'est arrivé une année, puisqu'ils avaient remporté la Coupe de France. Ils avaient pu disputer la Coupe d'Europe. Ça arrive aussi.
Saint-Etienne quand ils sont remontés.
Saint-Etienne quand ils sont remontés.
Leverkusen pendant le titre de championnat.
Tout à fait. Leverkusen, en plus, qui était une première pour ce club. Donc, non, franchement, c'était une très, très belle image que je voulais garder. Que je voulais garder en tête. Et donc ça c'était pour mon coup de cœur de la semaine, mais mon coup de gueule, justement, lui, va falloir aller du côté du tennis et du Masters 1000 de Madrid. Je reviens sur ce match franco-français entre Terence Sattman et Hugo Humbert. Un match, donc, en termes de score, ça fait 7-6, hein, 7-6-7-6, donc deux tie-break pour Terence Sattman, qui lui rejoint donc le troisième tour et il sera opposé à Alexander Zverev, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a deux faits de jeu qui se sont passés durant ce match. Le premier, les deux sont liés en fait, puisque le premier c'est que Terence Sattman a été victime de crampes, de violentes crampes durant son match. Il s'est retrouvé à terre, il s'est tordu de douleur. Et franchement, ce sont des images qu'on n'aime pas voir. Alors qu'il était une première fois sur le point de servir pour remporter le match, à 5-3 dans le deuxième set. Le match se dispute donc, il se poursuit donc jusqu'au jeu décisif du second set. Et là, rebelote, Sattman est victime de crampes encore plus douloureuses où il se tord de douleur de par terre. Il était mené pourtant 5-2 par Humbert dans le jeu décisif. Les 5 points suivants ont été remportés par Terence Sattman et c'est là que mon coup de gueule commence. C'est que ça a totalement dégénéré. La poignée de main a été vraiment fraîche entre les deux joueurs à la fin du match. Jérémy Chardy a pris à partie le juge arbitre de ce match, Alexandre Robin. En lui disant que c'était une honte, qu'il aurait dû accorder une pénalité pour dépassement de temps. Vraiment, ils ont vraiment été violents envers l'arbitre à ce niveau-là. Et ce sont des images qu'on n'aime pas voir parce que ça arrive d'avoir des crampes au tennis. Les crampes, surtout quand c'est pris par le stress, c'est pris par une hydratation parfois insuffisante, ça arrive à tous les sportifs. Moi, j'ai en mémoire un match entre Grigor Dimitrov et Stéphane Kozlov à Acapulco, il y a quelques années, où Kozlov avait fini à 3 reprises, cette fois-ci, par terre, la jambe droite complètement paralysée. Et finalement, il a réussi à finir le match en envoyant des souches dans tous les sens avec une jambe droite aussi tendue qu'un i. Et a remporté le match face à Dimitrov, qui est peut-être l'une de ses plus belles victoires en carrière, alors que le gars, il était à l'agonie physiquement, quoi. Mais pour autant, ça n'a pas eu lieu à des scènes vraiment, vraiment scandaleuses de sportifs mauvais perdants, quoi. C'est au contraire, Kozlov a été au bout de lui-même, Dimitrov l'a salué pour ça. Mais là, en ce qui concerne Humbert et Sattman, vraiment, ça a été vraiment difficile en coulisses. Autant envers Sattman, le joueur, que le staff et le juge arbitre de ce match.
Donc c'était pas bien beau. Quoi.
C'était pas bien beau.
Aristote, qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut arriver comme ça, des crampes dans tout sport ? Vaut mieux pas ?
Bien évidemment, ça peut arriver. Et que, comme il a dit le collègue, on ne boit pas assez d'eau, les crampes, elles viennent automatiquement.
Alors, toi, tu es donc éducateur sportif, c'est ça ? Arbitre de foot ?
Oui.
Ouais. Et puis en même temps, tu fais des arts martiaux, full contact, kickboxing. Comment ça arrive dans ta vie, ça, les sports de combat?
Ça arrivait en fait très jeune.
Ouais.
J'étais beaucoup très actif à l'école déjà. Donc, je faisais des bagarres, tout ça, ceci, cela. J'aimais les films de Jackie Chan, Bruce Lee.
D'ailleurs, les arts martiaux, c'est une bonne antidote contre la bagarre, hein. Faut le dire.
Oui, oui, exactement. J'aimais Dragon Ball Z. Et je me suis mis dans le sport vraiment à partir de 13 ans.
D'accord.
Et j'ai commencé par le taekwondo.
Ah oui, le taekwondo. Ouais. Et après, pourquoi tu bifurques vers les autres les arts martiaux?
Parce qu'en fait, je voulais plus de sensations.
Ah.
Donc, vu que le taekwondo, c'est un sport qui vient de la Corée, on en voit beaucoup de coups de pied, etc. Moi, je voulais aussi utiliser les poings.
Ouais, c'est ça. C'est réglementé, le taekwondo. Peut-être un petit peu moins le full contact et puis le kickboxing, quoi. Voilà,
on apprend vraiment l'art, être droit, etc. Voilà.
Et ça, t'as concilié avec une activité d'arbitre en même temps, hein. T'as fait les deux en même temps, non?
En fait, j'ai fait les deux en même temps, mais surtout aussi que j'aimais le... Donc, du coup... Par après, j'aimais le kickboxing.
Ouais.
Et j'aimais aussi le foot. En fait, j'ai commencé par le foot. Après le taekwondo. Après, en fait, j'ai fait les deux en même temps.
C'est bien.
Pendant plusieurs années. Et entre-temps, j'ai dit, il il me faut du plus de sensations. Donc du coup, j'ai bifurqué en kickboxing et je devais faire un choix.
Ouais.
En fait, c'était soit je joue au foot, soit
un moment, un moment qu'on pousse moins dans la compétition. Ouais, c'est un petit peu difficile, quoi.
Voilà. Et après, ben, j'ai dit bon, continue en kickboxing et par contre, je pouvais faire l'arbitrage. Mmh. Et du coup, je me suis dit ben autant faire l'arbitrage en foot.
Ouais.
Parce que j'aime le foot aussi.
Bien sûr. Et donc, du coup, tout de suite, les résultats sont là pour le kickboxing.
Ben, j'ai commencé directement avec des victoires. Ah ouais. J'ai
enchaîné. Juste ton palmarès, c'est assez impressionnant quand même.
J'ai enchaîné, j'ai gagné les titres champion de France en amateur, semi-pro et pro. Et après, je suis passé pro jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Donc, tu es professionnel. Donc, ça veut dire que tu t'entraînes combien d'heures par semaine?
Quasiment tous les jours.
Tous les jours.
Avant de venir, je me suis entraîné. Ouais. Je vais m'entraîner après l'émission de la radio encore.
Ouais.
Tous les jours.
Ouais. Alors, on parlait justement de l'hygiène de vie. Toi, tu vis avec, tu es obligé de respecter le poids.
oui, après, moi j'ai un corps quand même. Franchement, j'ai de la chance parce que je prends beaucoup, je prends vite et je perds vite.
Mm-hmm.
Ouais. Et je suis quelqu'un qui aime aussi, j'aime bien manger.
Alors, justement, parle-nous un peu de ton quotidien. Qu'est-ce que tu manges? T'es obligé de...
Non, franchement, dans mon quotidien, je mange bien en général.
Ah d'accord,
je mange bien, j'essaie de manger du riz, des pâtes.
Pas trop de choses, pas trop de... Voilà.
Non. Tout ce qui est les fast-food, tout ça, là, c'est peut-être...
Si, dans un autre, c'est important quand même.
Une fois par semaine.
C'est important psychologiquement.
Oui, il faut. Après, je vais pas dire...
Lâcher un petit peu, ouais.
Au contraire, moi, je recommande à des sportifs de haut niveau, au moins une fois par semaine, comme vous le dites, au niveau du cerveau, il faut se faire plaisir. Mm-hmm. On n'a qu'une vie, il faut en profiter.
Oui, bien sûr. Et là, tu fais combien de kilos, là, pour l'instant?
Oui, là, je dois faire 95 kilos.
Ah ouais?
Ouais. Mais ça ne se voit pas parce que j'ai les,
donc,
c'est les muscles.
Donc, on va rappeler la catégorie de poids qui est la tienne.
Boxe entre 86 et 88 kilos.
86, donc il y a encore un peu. Alors, tu as un prochain combat bientôt?
Normalement, le 31 mai aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, d'accord. Donc là, j'allais dire presque, tu as encore un bon petit mois quand même.
Oui, j'ai le temps de... Là, je suis en train de descendre doucement. Ouais. Je vais y arriver.
Ouais, tu vas y arriver. Tu connais ton adversaire, non? Ou tes adversaires?
C'est Amine Latifi.
Ouais.
C'est un Marocain de là-bas, des Pays-Bas. D'accord.
Comment on est justement son adversaire? On n'arrête pas d'y penser? Matin, midi, soir?
Non, là.
On ne met pas le visage avec.
Non, là, ça va.
Ouais.
Je dirais à l'époque, oui. Parce que là, on va dire que je suis plus vers une fin de carrière.
Oui.
Et avant, il y a 10 ans en arrière, je pensais tout le temps à mon adversaire.
Ah oui, c'est
en fait, un mois, pour moi, il fallait que ça passe vite. Je voulais être le jour J.
Ouais.
Voilà. Alors que là, maintenant, c'est plus la même motivation, on va dire, mais elle est toujours là, mais elle n'est pas comme avant.
Et comment tu es? Tu es quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours. Et quand tu vas rentrer sur le ring, j'allais dire là, comment ça se passe, les heures qui précèdent?
Et les heures qui précèdent.
On est dans sa bulle, t'aimes bien qu'on te parle? T'as un entraîneur, t'as un coach?
J'ai un coach. Pareil, c'est encore un autre sujet. Un ami coach en même temps.
Oui. Voilà. On peut être ami et coach?
Oui, ça dépend. Oui,
c'est peut-être plus facile pour qu'ils te disent quand ça ne va pas, quoi.
Oui et non, parce qu'il y a quand même ses avantages et les inconvénients quand même.
Mm-hmm.
Et du coup, le l'ami coach, en gros, les heures d'avant, donc on va dire on fait tout pour que tout se passe bien, on se prépare mentalement, afin que tout soit fluide au moment du combat.
Tu vas rappeler un petit peu combien de combats tu as et ton palmarès? Moi, je le sais, je l'ai vu.
Ouais, j'ai à peu près une soixantaine de combats.
Quelques KO?
Oui, après moi, je ne suis pas quelqu'un qui met des KO. Je suis plus quelqu'un qui boxe avec ma tête.
Mm-hmm.
J'aime bien me déplacer, je me déplace beaucoup, toucher, marquer mes points et gagner comme ça.
Mmh. Alors, on va rappeler un petit peu pour le grand public la différence entre donc, le full contact et le kickboxing. Et puis, en combien de temps dure un match?
En full contact, bon, déjà de base, on a comme un pantalon.
Ouais.
Donc, ça vient un peu d'Amérique, quoi, full contact. Et tous les coups, ils sont au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire les coups de pied et les coups de poing, c'est à partir du bassin et jusqu'à la tête. Après, le seul action qu'on peut mettre en bas, c'est des balayettes. Et il faut que le pied soit collé au sol. Mmh. Et voilà, après, le reste, c'est pieds-points. Et puis, on a des chaussons aussi. On a des chaussons en full contact. Mmh. On n'a pas en kickboxing.
Oui, alors toi, tu as fait du full contact aussi, mais tu préfères le kickboxing, hein, je crois.
Oui, voilà, je préfère le kickboxing. Parce qu'en fait, moi, en pieds-points, et comme je venais du taekwondo, et qu'en full contact, on envoie beaucoup les coups de pied, pour moi, c'était facile de m'adapter au full contact.
Mmh. Ouais. Et alors, on peut passer d'une discipline à l'autre. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode. Hein. On arrive même au MMA, certains. Ça te tente pas?
En fait, moi, déjà, depuis 2016, on me disait déjà, mets-toi au MMA.
Ah, ouais. Bah oui, c'est la mode aujourd'hui.
Et avant que ça soit légalisé en France. Mais sauf que moi, j'ai grandi vraiment dans le kickboxing, dans le K1, plus précisément.
K1, ouais.
J'ai eu mon idole Rémi Bonjasky, qui est un Hollandais. Ouais. Et je me suis vraiment inspiré de lui, ses coups de pied sautés, ses genoux sautés, etc. Et puis même mon style à moi, je me sens plus à l'aise en pied-point, debout, que le sol, aller au sol. Parce que c'est encore une autre discipline. Il faut accepter le sol, il faut aimer les clés, etc. Et je ne me voyais pas dans ça.
Ouais. Alors tu vas rappeler un petit peu le nombre de rounds, en combien de rounds?
On va dire en full contact, en général, c'est des 5 fois 2.
Ouais, oui, on le cardio, là.
Voilà. Mais par contre, en K1, c'est plus du 3 fois 3. 3 rounds de 3 minutes. Après, on peut faire des 5 rounds de 3 minutes pour ceinture mondiale.
Ouais. Etc. Donc, tu es champion du monde, hein, tu as emmené ta ceinture. Mais, voilà. Après, une fois que tu auras battu le Marocain, la suite, c'est quoi?
En fait, là, j'ai fait quasiment le tour.
Bah oui.
Mais là, je suis, comme je l'ai dit, plus en fin de carrière, mais je boxe toujours parce que j'ai la santé me le permet. J'aime ça. J'aime ça, même s'il y a un petit peu moins
d'adrénaline, peut-être.
Oui, d'adrénaline. Ouais, ouais,
ouais. Parce que, un peu moins la niaque, peut-être.
Moins la niaque, etc. Mais en tout cas, je suis là.
Mais c'est compensé par l'expérience, quoi.
Voilà, et voilà, exactement. Il y a l'expérience qui est là. Et tant que la santé me permet, je continue.
Et tu pourrais donner conseil à un jeune, s'il y avait des jeunes, te reconvertir, devenir carrément coach, manager, être en vie dans ton sport?
Moi, personnellement, moi, c'est le but, en fait. C'est le but d'après carrière, on va dire, d'ouvrir ma propre salle et d'enseigner, parce que je le fais déjà.
Oui.
Je le fais déjà actuellement. Et là, de le faire plus dans une structure, dans une salle avec plusieurs adhérents, etc. Pour transmettre ce que j'ai appris, quoi.
Et quel est votre plus beau souvenir, le plus beau souvenir de votre carrière, en plus du titre de champion du monde de kickboxing?
Je dirais le plus beau souvenir, bon, je peux parler quoi, d'un combat?
Ouais, par exemple.
Bah, d'avoir battu, je sais pas, c'est comme si je pourrais vous dire, façon de parler dans le milieu du football, un Zinedine Zidane.
Oh,
mais sauf que c'était dans ma discipline en kickboxing. À l'époque, c'était un Roumain, Bogdan Stoica, il s'appelle. Il boxe toujours en plus. Hein.
Ouais.
Et un très très grand champion, mais vraiment. Quand je l'ai boxé, comme je vous dis, à l'époque, mettez-moi qui vous voulez, je veux rien savoir, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. En fait, c'est après que je me suis rendu compte qui était vraiment ce boxeur. En fait, sur le coup, j'étais dans ma bulle, vas-y, ramenez-moi qui vous voulez, j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai boxé, je l'ai battu. Et c'est après, quand je regarde vraiment qui c'était, même dans le milieu, dans le monde de la boxe, du kickboxing, tout le monde m'a donné le respect juste à travers ce combat-là.
Ouais. Et il y a des publics plus hostiles que d'autres quand tu te déplaces à l'étranger?
Plus hostiles
On sait que les boxeurs disent que des fois, c'est pas évident d'aller boxer chez les Américains.
Oui, après, je dirais, quand même, le pied-point, je dirais quand même, ça, c'est très, très fort. En Hollande, aux Pays-Bas. Donc, on va dire que c'est un public hostile.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que là, ils sont tous pour ton adversaire, quoi.
Exactement. Après, y a, en fait, chaque pays a ses fans
Et t'es allé dans le monde entier grâce à ton sport?
J'ai fait beaucoup de pays en Europe, ouais. Turquie.
Ah ouais, en Italie, Turquie, ça doit pas être simple. En Turquie, ça doit pas être ouf. Ça doit être chaud, le public.
Le public est chaud, mais le public, franchement, c'est eux que je mets vraiment en, on va dire, positif, dans le sens où j'ai jamais vu, parmi tous ceux que j'ai fait, un public respectueux.
Ah, d'accord.
Même les organisateurs, le public, malgré que j'ai battu leur champion en 2018-2019, par là.
Ouais, d'accord.
Ils sont quand même venus me voir. Ils m'ont pris des photos. J'ai été harcelé de photos.
C'est bien.
Moi-même, j'étais choqué. Je me suis dit, attends, mais j'ai battu votre champion et vous êtes quand même pour moi. Franchement, j'ai jamais compris.
Et l'arbitrage, ça va?
L'arbitrage...
Parce qu'on sait que des fois, dans des sports, des arts martiaux, il y a des fois, on n'a pas non plus l'arbitre avec soi. Des fois, on juge les situations un petit peu trop sévères quand on est à l'extérieur, malheureusement.
Bah oui, ça, c'est... Dès qu'on est à l'extérieur, déjà, il faut se dire, on part perdant. Donc, si on veut être gagnant, il faut marquer son territoire.
Donc, il faut gagner par KO.
Pas forcément par KO, mais dès le premier round, il faut mettre son...
Pour rentrer dans la tête de l'adversaire.
Alors tiens, même question qu'au billard. Quand tu rentres sur le ring, comment tu es? On voit souvent ces images, les boxeurs qui te donnent un petit peu d'intox. T'es pareil?
Non, moi je suis vraiment... déjà, avant même de rentrer sur le ring, je rentre en général. Oui. Je rentre en dansant.
Ah oui, voilà.
Je mets
ça, c'est une tradition,
pays.
Ça. Ouais, ouais.
Donc en fait, il y en a même plein, ils sont choqués, ils disent mais c'est qui ce boxeur, il rentre, il danse. Et puis oui, je rentre, je danse et 90% je gagne et
t'as rendu public.
Voilà, et je redanse encore derrière. En fait, c'est ma marque.
Oui, quand bien sûr.
Ils savent que je vais boxer, ils disent ah, c'est le danseur.
On gagne bien sa vie quand on est champion du monde?
On gagne bien sa vie, je dirais non. Parce que, en fait, moi, je travaille à côté, comme tout le monde.
Non, mais c'est pour le grand public, il faut qu'il sache.
C'est un sport. Voilà. Moi, le kickboxing là, que je fais, c'est un loisir, une passion pour moi. C'est un plus. Après, j'aurais bien aimé. En vrai, si.
T'as des partenaires, même pas?
Non, pas
même pas les communes, rien?
Non.
Ouais.
Et ça aurait été bien si. Le ministre des Sports, tout ça. Après, j'ai déjà entendu pas mal de sports, il y en a beaucoup, on est quasiment tous dans le même cas. Et ça aurait été bien s'ils auraient pu nous aider derrière. Parce que moi, j'aurais vraiment aimé, si j'aurais été 15 ans en arrière, par exemple, faire que ça. Mais là, j'aurais été vraiment très, très loin, c'est sûr.
Et vos combats sont transmis à la télé?
Ça dépend des...
Il y a une chaîne de sports de combat.
Ça dépend des organisateurs.
Et des plateformes, je crois.
Des partenariats avec qui ils ont au moment du gala, par rapport à la diffusion. À l'époque, je sais que quand je boxais avec Super Combat, une organisation en Roumanie. Et eux, c'était avec Eurosport. C'est-à-dire, quand je boxais chez eux, on voyait mon combat en live.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne sur Internet.
Maintenant, c'est plus des pay-per-view.
Ouais, c'est ça. Il faut payer.
C'est la traîne de maintenant, quoi. Faut payer pour regarder directement.
Théo, nous on devait aller à la boxe samedi, et puis du coup on n'y est pas allé. On n'a pas travaillé.
Gros souci, même surtout pour les passionnés.
L'info, elle est tombée mardi après-midi. Donc tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé.
C'est
complètement surréaliste.
Gros coup dur pour tous les amateurs de boxe qui devaient se rendre donc à l'Adidas Arena. Samedi dernier, pour voir un événement assez fantastique avec de nombreux combats, notamment celui de Bakary Samaké et le retour aussi de Tony Yoka. Et ben non, comme tu l'as dit, parce que mardi, la nouvelle est tombée. Laurence Okoli, donc, qui devait affronter Tony Yoka, a été testé positif donc à un test antidopage fait de manière un peu pérenne.
C'était fait avant, et donc il
s'est avéré positif. Et donc Queensberry, qui était l'organisateur donc, de tout l'événement, a décidé d'annuler toutes les cartes. Donc au lieu de trouver soit un remplaçant pour, pour Tony Oka ou juste annuler son
ils
combat.
Ils ont estimé que le remplaçant n'était pas au niveau, à la hauteur. Donc retransmettre ça chez nos amis de DAZN, c'était compliqué.
Et donc ils ont tout bonnement annulé tout l'événement. Donc gros cataclysme pour le monde de la boxe. Quoi.
Ouais. Ça paraît incroyable quand même de tout annuler comme ça. On se met un petit peu à la place des sportifs quand même. C'est frustrant quoi.
Franchement, ouais, c'est. Moi, j'aurais été à leur place.
Ouais.
Moi, je serais énervé, quoi, parce qu'on se prépare quand même.
Ah,
on
oui,
se prépare
oui,
pendant des mois et des mois. On fait des sacrifices, on. Hygiène de vie, on perd le poids.
Bah oui.
Et puis, on vous dit que c'est annulé comme ça.
D'ailleurs, sur les réseaux, il y a eu une image avec beaucoup ça, d'humour. Ça me fait penser à ça.
Bah, Bakary Samaké a réagi assez vite, comme son habitude, hein, très souvent sur les réseaux sociaux. Donc, il a posté une image, donc c'était un plat de frites avec énormément de sauce ou quoi. Et
avec la mayonnaise.
Il a un petit peu ironisé sur le fait qu'il disait que ça faisait longtemps qu'il attendait ça, donc il en profitait pour.
Mais c'est vrai que ça paraît comme ça incroyable, parce que toutes les conséquences sportives, hein, donc comme disait Aristote, on se prépare des mois et des mois, mais les conséquences financières aussi.
Ouais, financièrement, c'est compliqué. Là, c'est la,
les droits télé, il faut rembourser les spectateurs, enfin bon, bref.
Maintenant, la société de production Bakary Promotion a annoncé qu'ils allaient rembourser.
Il y a une conférence de presse avant.
Exactement.
Hein, chez les casinos tranchants là-bas.
C'est ça. Et donc là, ils ont, c'est la société donc, de Bakary Samaké, donc Bakary Promotion, qui a annoncé rembourser toutes les places qui ont été achetées parce que, au final, du coup, les gens ne peuvent pas venir et certains allaient se déplacer de loin pour venir en plus.
Est-ce que ce n'est pas un mauvais coup porté à la boxe? Parce que c'est un sport qui a connu quand même pas mal de problèmes, justement, par la prolifération de. Des différentes catégories, il y avait quatre catégories, donc on ne savait plus qui était champion, qui était vraiment le meilleur du monde. Nous, on était allés à une réunion fin octobre à Levallois-Perret, où là, il y avait eu une certaine crédibilité, on avait retrouvé les grandes salles de boxe, avec cette réunion à Levallois-Perret, il y avait tout le parterre des personnalités qui étaient là, qui étaient présents, donc la boxe ressemblait à nouveau... repartir du bon pied, et puis là, coup d'arrêt important.
Exactement, parce que là, on avait quand même un gros rassemblement. Oui. Il y avait énormément de
et
combattants.
Et c'était un petit peu dans la suite de ce qui s'était passé à Levallois-Perret.
Totalement, hein,
il y avait beaucoup
de combattants, il y avait quand même deux grosses cartes, donc il y avait Samaké et Tony Oka qui faisaient son grand retour. On avait donc quand même Queensberry, la société de production qui s'associait donc avec celle de Bakary Samaké, avec DAZN en diffuseur, et on avait un casino en promoteur. Donc ça annonçait vraiment quelque chose de grand et ça avait tout...
Et pas n'importe qui en plus.
Exactement, tout était organisé, donc c'est les casinos tranchants en plus.
Oui, tranchants, pas n'importe qui.
Tout organisé pour avoir vraiment un gros rassemblement de la boxe en France, et donc c'est dommage qu'en effet ça retombe à l'eau.
Oui, alors est-ce qu'on a une idée de quand le combat aura lieu, et est-ce qu'on peut le prévoir encore sur Paris et sur la région parisienne? Parce que
là,
il va falloir retrouver une salle,
C'est compliqué de se projeter parce qu'on va en parler donc c'était quand même l'Adidas Arena, donc elle est bookée assez souvent cette salle, hein, elle est magnifique. Donc, il y a énormément d'événements et donc la société de production, donc Bakary Promotion, a annoncé justement qu'il y allait avoir une nouvelle date pour le combat de Bakary Samaké prochainement. Mais
ça peut être à Londres, ça peut être à Cannes.
Exactement, il n'y a rien de concret actuellement, quoi. Tout le monde est dans le flou et j'ai l'impression que même les combattants sont dans le flou.
Mmh. C'est jamais arrivé en kickboxing quand même.
Si,
c'est arrivé.
Ça m'est déjà arrivé. Le pire, c'était... des fois, ça m'est déjà arrivé 3 jours avant. L'adversaire, il se désiste.
Oui. Mais il peut se blesser.
Bon, ça peut arriver, oui. Ouais, mais moi, des fois, j'ai appris parce qu'il a eu peur.
Ah bon? Mais alors, il se trouve une blessure diplomatique.
La fameuse blessure diplomatique.
Voilà. Et alors, tiens, justement, les contrôles antidopage. T'en as eu?
Non, moi, je n'ai pas eu. Mais moi, de toute façon, je ne prends pas de...
Non, mais on sait bien, mais tu n'as jamais été confronté au fait. On n'est pas venu frapper chez toi le matin à 6h contre l'inopiné, quoi.
Non, en général, s'ils le font, ils le font avant ou juste après le combat, etc.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que c'est quelque chose d'assez récurrent, le dopage, dans les sports de combat?
Après, ça dépend des organisations là où vous le faites. Là, on le fait, on va dire. Mais j'ai peut-être fait une fois, mais il y a très longtemps. C'était des tournois un peu internationaux, tout ça, là. Donc, il fallait que j'aille uriner. Mais
Alors, notre ami anglais, il s'est fait prendre au GHRP2. Donc, c'est une substance... qui stimule l'organisme à libérer l'hormone de croissance humaine. Voilà.
Ouais, donc clairement, il allait se transformer en Hulk sur le
ring. C'est ça. C'était le but. Peut-être manque d'entraînement ou manque de préparation, ou il se sentait blessé. Donc voilà. Il y a, Rassurez-moi, il n'y a pas de contrôle au billard.
Bien sûr.
Oh, il y en a eu.
Bien sûr.
Ah, ouais, sport. Ouais, ouais. Ah, justement.
Ah ouais, c'est. On a le problème de l'alcool, du.
Ah ouais.
Ouais, de la drogue.
Ah oui, la drogue. D'accord. Ok. Ouais.
Et certains qui ont, prennent des substances interdites sans le savoir, les produits du cœur.
Mm-hmm. Ah oui.
Oui.
Donc voilà.
Et puis peut-être pour.
C'est vrai qu'il y a souvent ça, même il y a les, en termes de réglementation, souvent il y a des médicaments qui sont après. Sont après assez souvent interdits parce oui, que parfois ça peut booster faire, ouais. aussi les performances. Donc en fonction des fédérations, en fonction des sports, il y a certains médicaments qui sont autorisés ou non.
Oui, après, on n'a pas des, des séances de contrôle régulières.
Non, non, mais bien sûr. Voilà, mais bien sûr. Mmh.
Mais on a eu des très bons joueurs qui, un petit verre permet d'améliorer les performances. Ouais.
Ah oui, bah oui. Et là, donc, si on se fait choper, c'est la radiation à vie dans votre discipline.
Bah, tout dépend de l'importance de l'événement.
Oui. Ah. Oui, oui, bien sûr. Ouais, bon, enfin, même si ça commence dans un petit tournoi local, qu'est-ce que ça va être après, quoi ?
Non, après, il faut garder la convivialité. Hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ouais, on n'est pas tous du sport de haut niveau. Hein.
Oui, bien sûr. Aristote, tu as un fan club ?
Un fan club
Qui te suit dans les matchs ou à travers les réseaux sociaux ?
Oui, j'ai mes amis qui me suivent dès que j'ai des combats. J'ai déjà eu même des combats, on va dire, Lille, Troyes, de Paris, font le déplacement.
Ah, c'est bien, c'est bien. Là-bas. Bon, donc on va rappeler ton combat, ça sera le 31 mai.
31 mai,
oui. Ouais, donc c'est un dimanche, c'est
oui,
ça, le 30 mai. Ouais, ouais. Donc, on va rappeler où ?
Rappeler ?
On va rappeler où ?
Du coup, c'est à Eba, Den Haag, la ville.
Ah, oui.
D'accord. Voilà. Bon. Certains veulent effectuer le déplacement, hein, il n'y a aucun problème.
Oui,
d'accord.
Et l'organisation s'appelle WFL.
D'accord. Ouais. Bon, tu nous donnes des résultats, quoi qu'il arrive.
Ça marche, hein. Oui.
Voilà. Allez, on va marquer une petite pause musicale et ensuite on va parler d'un sport que tu aimes bien, c'est le ballon rond.
Hein. Oui.
Allez, on y va. La pause musicale avant.
T'inquiète, t'es la plus belle, ouais, la plus belle de Montel. Artificielle, mais si tu tires les ficelles, je suis comme en laisse. Je sens que parfois, comme l'oseille, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
C'est la Warano à tes tâches, tu fais pas partie de la chorale. Elle aime les mettre en ce plat, avec de l'aura, tu l'auras. Champs-Élysées, balade vers les Champs-Élysées. Bébé, les pas m'ont localisé. Prends le volant, je suis alcoolisé. Elle active les lumières tamisées. Elle active les lumières tamisées. Avec moi quand c'était la misère. Elle veut du sérieux, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel. Elle est canon comme pas possible.
Moi je veux une parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert. Qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert. Qui s'en fout de la tour Eiffel.
Avenue Montaigne, rien de personnel, mais trop de professionnels, ça me lâche pas d'une semelle. Ça va couper, j'ai l'excuse du tunnel. Numéro uno, encore cette semaine.
Parfois, comme l'oseille, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je veux une parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
Ce soir j'ai tout plié, on sort les gros billets, appelle les bons billets, donc pillez mon billet. Et ce soir j'ai tout plié, on sort les gros billets, appelle les bons billets. J'ai dit ce soir, je vais tout plier, papa.
Mon Paris est fait. Donc, Marius, ça sera une finale Nord contre Sud.
Et oui, parce qu'on a eu les demi-finales de la Coupe de France. Hein. Cette semaine, on a eu un Lens-Toulouse Et bah, comme on en a parlé déjà hein, dans ton coup de cœur, Stéphane, ouais. Lens s'est imposé magnifiquement à la maison 4-1 contre Toulouse.
Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu photo.
Non, il n'y a pas eu de match. Par contre, on a eu Strasbourg-Nice et là, on peut parler quand même d'une surprise. Hein. Mm-hmm. Nice, énorme coup à la méno. Pourtant, dans une saison très difficile, hein, Nice, il faut le dire, en Ligue 1, va jouer la finale de la Coupe de France puisqu'ils ont gagné 2-0 avec un doublé d'Eli Wai.
Alors, Nice, c'est quand même une équipe qui réussit plutôt bien en Coupe de France depuis quelques saisons. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Mais à noter que Strasbourg, qui avait tendance à plutôt se concentrer sur la Coupe de France et la Conférence League, et bah finalement, ils sont éliminés de la Coupe de France maintenant.
Donc, finale Nord-Sud.
Le 22 mai.
Le 22 mai, ouais. Le vendredi soir, ouais, 22 mai, donc au Stade de France. La Ligue 1.
Et bah Ligue 1, on a eu le match, le match en retard du PSG hein, de la 26e journée qui contre Nantes. Et c'est une victoire du PSG à la maison 3-0. Paris qui s'impose plutôt facilement face à des pauvres Nantais qui vont.
Et qui condamnent définitivement Nantes.
Ouais, qui, ça y est, maintenant, on peut le dire, hein, ils vont aller en Ligue 2. Ouais. Sinon, on a eu une semaine, un week-end plutôt chargé en buts. Hein.
37 buts. Voilà. Je crois que c'est le record de la saison. Donc, je crois que, ou alors, il doit y avoir une journée qui.
Il me semble qu'il y a eu une journée où c'était pas mal aussi.
Équivalente à 37 buts. Mais voilà. C'est
et bah, ça a commencé par un Brest-Lens hein, et match nul 3-3, mais match incroyable et spectaculaire à Brest. Les Lensois, d'abord menés 3-0 à la mi-temps, ont réussi à revenir à hauteur. Bon, c'est quand même un bon point pris vu la physionomie du match pour Lens. Mais maintenant, ça cale pour ces deux points de perdu pour la course au titre. Ça laisse maintenant Paris seul en tête. Hein.
Ça veut dire que le match du 13 mai, bah, il ne sera pas aussi décisif qu'on le pensait.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bon, on pouvait un petit peu s'y attendre.
Oui,
quand même.
Aussi. Ouais. Ensuite, on a eu Lyon-Auxerre. Et là aussi, gros score. Hein, victoire de Lyon 3-2. Lyon enchaîne enfin hein, et signe un succès précieux à la course à l'Europe. Lyon est maintenant plus qu'à 6 points hein, de Lens. Donc... à la deuxième place, hein, Lens à la deuxième place. Auxerre, c'est toujours barrage.
Je crois que c'est fini pour Auxerre.
Ça va jouer les barrages.
Ouais,
ça va jouer les barrages.
Ouais.
Ensuite, on a eu PSG, pardon.
Ouais.
Et victoire du PSG 3-0 à Angers. Paris plus sérieux et appliqué s'impose tranquillement à Angers.
Même score que contre Nantes. Voilà,
même score contre Nantes. Et se rapproche du titre. Maintenant, c'est presque acté. Ouais. Et prépare au mieux son match, le match le plus important de la saison, demain. Contre le Bayern de Munich.
Quel match.
Quel match. Ensuite, on a eu un Toulouse-Monaco et match nul 2-2. Monaco n'avance plus hein, et cale encore. Après pourtant avoir mené 2-0, les Toulousains ont arraché le nul à domicile. Monaco lâche encore des points très très précieux et se complique la Ligue des Champions. Ensuite, on a eu Lorient-Strasbourg et là aussi match incroyable. Victoire de Strasbourg 3-2 à la Moustoire. Et
qui
met fin à une série d'invincibilité depuis, il me semble, septembre-octobre à domicile pour Lorient.
15 matchs à peu près.
Ah ouais, c'était énorme. Et Lorient qui a pourtant écrasé Strasbourg en première mi-temps, qui est mené 2-0. Les Strasbourgeois, avec un but à la 92e et un autre à la 99e, renversent Lorient et croient maintenant encore au top 6. Pourquoi pas on ne sait jamais. Ensuite, on a eu PFC Lille et victoire. De Lille 1-0 au PFC, c'est la fin de série hein, pour Comboiré, première défaite avec le Paris FC. Fallait que ça arrive au bout d'un moment, hein, c'était quand même une belle série.
En plus, c'est Lille,
c'est pas une mauvaise équipe. Les Lillois buteurs sur pénalty, on a cru voir quand même à un moment Paris revenir puisqu'ils ont eu un pénalty. Malheureusement, c'est Kebal qui a trouvé le poteau. À noter quand même un carton rouge assez incompréhensible, je ne sais pas si vous avez vu, de Pierre Lesmelou en fin de match. On n'a pas trop compris à la télé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a eu un Rennes-Nantes et victoire de Rennes 2-1. Donc, quatrième victoire de suite pour les Rennais dans un derby animé quand même.
Tu fais encore plus de mal à Théo, là.
Bah oui, je suis désolé Théo, hein, mais bon, c'est comme ça.
Hein. Un peu trop, là, c'est dur. Hein.
Et les Bretons qui croient encore à la Ligue des Champions, Nantes, bah, ils restent toujours à 5 points de Auxerre.
De toute façon, ça leur pendait au nez depuis quelques années.
Maintenant,
avec les déclarations de Kita, droite à gauche, horrible.
La succession d'entraîneurs qu'il y a eu depuis des années, ça leur pendait malheureusement au nez.
Les joueurs n'y croient plus.
Les joueurs aussi, c'est ça. Et ensuite, on a eu un match incroyable aussi, Le Havre-Metz, match nul 4-4. Quel match encore, Le Havre, qui a pourtant mené par 4 fois, a fait face à des Messins avec le cœur qui rate même la balle de match en toute fin de rencontre. Ils avaient l'occasion de gagner 5-4, les Messins. Cependant, malheureusement, les Metz, malgré un match nul spectaculaire, bah, ils sont condamnés à la Ligue 2. Ouais. Voilà, c'est fini.
Eux, ils font l'ascenseur comme Troyes et Saint-Etienne.
Ouais,
hein, mais
exactement.
Bon, voilà.
Et le match du dimanche soir, Marseille-Nice et match nul 1-1 à Marseille. Encore une contre-performance pour les Marseillais qui devaient gagner après la débâcle à Lorient. Marseille, ça commence à devenir très inquiétant et très très compliqué pour la Ligue des Champions. Puisqu'ils sont maintenant 6e.
Alors justement, le PSG, donc 69 en tête, devant Lens, donc à 6 points, 2e, 63. 3e, Lille et Lyon, avec 57 points, ils sont à égalité au goal average, hein, plus 16. Hein. 5e, Rennes, 56. 6e, Marseille, 53. Et 7e, Monaco, 51. Voilà pour ceux qui vont à peu près se disputer les places européennes, hein, en espérant que si Lens gagne, eh ben, ça libère une place jusqu'au 7e. Mm-hmm. Et si Strasbourg gagne la conférence, on pourra aller jusqu'au 8e.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Ensuite, donc, le Paris FC est 10e avec Toulouse et Brest avec 38 points. Et puis en bas de tableau, on l'a dit, hein, ouais. Je crois que les carottes sont cuites. Auxerre terminera donc sûrement barragiste 16e avec 25 points. 17e Nantes, 20 points. Et 18e Metz, donc 16 points, sachant qu'il reste 3 journées.
Oui, 3 journées.
Donc voilà. Allez, on passe à la Ligue 2. Là, il reste plus que 2 journées.
Oui.
Là, ça y est.
Ça sent la fin.
Ouais, ouais, ça sent la fin. Pour 3 déjà, qui remontent en Ligue 1, ça c'est officiel.
C'est officiel et on en parlera juste parce que c'était le dernier match. Ouais. On a eu d'abord Red Star Guingamp et victoire importante du Red Star 3-2. Ensuite, Laval-Rodez, match nul 0-0. Amiens-Montpellier, victoire de Montpellier 2-0 à Amiens. Annecy-Pau, victoire de Annecy 5-1. Clermont-Bastia, match nul 1-1. Grenoble-Le Mans, pareil, match nul 1-1. Reims-Saint-Cy, pareil, match nul 1-1. Et là, Saint-Etienne 3, énorme victoire de 3 à Saint-Etienne, qui, comme tu l'as dit, Philippe...
Ça va peut-être coûter cher au vert. Hein.
Ça... Et oui, puisque maintenant...
Ils sont 3e, là.
Et à ne pas oublier qu'il y a quand même Boulogne-sur-Mer Dunkerque ce soir.
Ouais. Voilà. Bon, ça sera le derby nordiste, mais 3 étant, donc avec 64 points, retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine. Le deuxième, c'est Le Mans 58, et troisième, Saint-Etienne 57. Donc là, il reste 2 journées. Ça va se battre entre
Saint-Etienne
les deux.
Saint-Etienne a un calendrier plus dur que Le Mans, en plus. Donc ça va être compliqué pour Saint-Etienne.
Derrière, ça va être un petit peu compliqué quand même. Le Red Star, 4e avec 54 points, on devrait jouer les pré-barrages. Reims et Rodez, qui sont 5e avec 52 points, mais il y a donc un goal average largement supérieur pour Reims face à Rodez, hein, plus 16 pour Reims et plus 4 pour Rodez. Et puis, en bas de tableau, attention
Bastia.
Quand même. Hein.
Bastia,
Bastia, ça va être peut-être un petit peu compliqué.
Mais qui revient quand même.
Mais c'est surtout Laval.
Oui, Laval aussi.
Parce que Clermont et Nancy sont 14e avec 31 points et Laval est 16e avec 29 points. C'est-à-dire que même à 2 journées de la fin, Laval peut encore éviter les barrages.
Ça va se jouer.
Par contre, Bastia, ça va être compliqué. Hein. Ils sont 17e avec 25 points et Amiens 18e, 24 points. Quand même, grandeur et décadence, cette équipe d'Amiens qui était encore en Ligue 1 il y a quelques saisons et qui va retrouver le National quand même. Hein.
C'est triste.
C'est fou. Et alors, on aura justement Le Mans-Reims et Rodez-Saint-Etienne lors de la prochaine journée. Donc, attention.
Attention, ça va être des gros matchs. Hein. De toute façon, c'est la fin de saison. Donc, tous les points sont importants maintenant, hein, de toute façon.
Allez, le National, 31e journée.
31e journée.
Sans le Paris.
Sans le Paris très Atlético.
Ils ne jouaient pas parce qu'on sait qu'il y a, y a un nombre impair d'équipes. Ouais. Hein, il y a 17 équipes.
C'est ça.
Donc, il y a toujours une journée où il y a une équipe qui est exempte.
Et on a eu Châteauroux-Fleury et victoire 2-0 de Fleury à Châteauroux. Et match nul de Versailles contre le Puy, 2-2.
Ouais. Alors c'est dommage, on n'a pas Stéphane Desenclos, parce qu'il y a eu un beau papier du président Bovis, qu'on connaît bien, dans 433foot.fr, sur le président Bovis, qui explique un petit peu la gestion de son équipe. Il a une gestion très, très paternaliste, hein, comme les anciens présidents, un petit peu. C'est ce qui explique peut-être le succès de son équipe, qui pour l'instant peut jouer les barrages. Hein.
C'est
incroyable.
Oui, toujours. Voilà. Toujours.
On va quand même rappeler que Sochaux a battu Bourg-en-Bresse 2-1 et que Dijon a battu Valenciennes 1-0. Ça veut dire que les leaders sont. Voilà. Donc, pour l'instant, se maintiennent aux deux premières places. Pirouan, qui a battu aussi Aubagne 3-1. Donc, Dijon, 59 premier. Sochaux, deuxième, 56. Pour eux, c'est bon, ils vont retrouver la Ligue 2. Et par contre, la bataille, elle fait rage derrière. Puisque Fleury, Mérogis et Rouen sont troisième avec 51 points. Versailles peut encore un petit peu y croire. Cinquième avec 48 points. Sixième, Orléans, 47. Et septième, Le Puy, 46. Donc, voilà pour les 3-4 équipes qui peuvent encore espérer aller jouer les barrages.
Les barrages,
Et en bas de tableau, 15e, Bourg-en-Bresse, 25 points. 16e Châteauroux, 23 points, 17e Saint-Brieuc, 20 points. C'est incroyable Châteauroux aussi. Hein.
Ah,
la descente de ce club.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grosses équipes qui vont malheureusement descendre cette année. Ouais.
Ouais. Allez, on passe aux féminines. Il y avait deux journées cette semaine.
Il y avait deux journées et on a eu la 20e et la 21e. Ouais. Alors la 20e, le PSG a gagné 2-0 contre Saint-Etienne. Lyon a gagné 4-0 contre Dijon. Le Paris FC a gagné 2-0 contre Montpellier et Fleury a gagné 3-1 contre Strasbourg. Pour la 21e journée, on a eu Dijon-Paris FC. Le Paris FC s'est imposé 2-1. On a eu Fleury contre PSG et victoire du PSG 2-0. Et Lyon va jouer son match contre Nantes mercredi à 19h.
Pourquoi ? Parce qu'il joue la Ligue des Champions.
Parce que Lyon jouait la Ligue des Champions. Ouais. Et malheureusement, Lyon s'est incliné au match aller à Arsenal 2-1. Les deux buts sont totalement gaguesques. Hein. Elles se sont sabotées elles-mêmes. Mais voilà, ça.
Match retour le 2 mai, je crois.
Match retour le 2 mai, elles peuvent le faire évidemment.
Et l'autre demi-finale donc ?
L'autre demi-finale, c'était le Bayern contre le Barça. Ouais. Et ça s'est fini sur un match nul 1-1. Les Barcelonaises sont évidemment favoris pour le match retour puisqu'elles vont jouer à la maison.
Ouais. Et chez les féminines, donc dans le championnat, il ne reste plus qu'une journée.
Qu'une seule journée.
On connaît les quatre équipes qui font les play-offs, hein, puisque Lyon est en tête avec 56 points. Deuxième, le Paris FC, 45. Troisième, PSG, 44. Ouais. Bravo quand même le PSG qui a perdu 9 points.
Ouais.
9 points quand même. Ils ont pu quand même aller chercher les play-offs. Et quatrième, Nantes, 39 points. Ça sera trop juste pour Fleury Mérogis qui termine cinquième avec 32 points.
Malheureusement. Voilà. Ouais. Bah, dommage, mais il faut souligner aussi Nantes. Hein. Nantes, c'est quand même une bonne saison de la part des féminines.
Oui.
Hein.
Ouais,
donc, sera content pour
les féminines. Avec les féminines en
et
effet.
On parlait de Dijon qui va remonter en Ligue 2, mais par contre, la section féminine est en très grosse difficulté. Elle va probablement s'arrêter.
S'arrêter aussi. Ouais.
Et disparaître. Ouais. Vous avez des clubs favoris ? T'as un club favori ? Aristote ?
C'est le Paris Saint-Germain.
Oui, bien sûr.
Très bon choix.
Bien sûr. Bon, t'es content, tu te régales ?
Oui, je me régale et demain j'attends le match avec impatience.
Est-ce que malgré ton entraînement, t'as le temps d'aller de temps en temps au Parc des Princes ?
Moi, je suis fan du PSG, mais je ne vais pas forcément au Parc des Princes. Je le regarde
dans
des endroits où il y a beaucoup de fans ou à la maison. Ça suffit largement.
Mm-hmm. Et du côté du billard ?
Par mon lieu de naissance, je suis de l'Aquitaine, donc.
Ouais.
Donc j'étais fan de Bordeaux.
Ouh là là. Ils vont même pas remonter. Hein.
Attends, c'est pas fini encore.
Ouais,
c'est
mal engagé l'affaire. Hein.
Ouais, c'est mal engagé, mais on sait jamais.
C'est la Roche-sur-Yon, je crois, qui va monter. Ouais, c'est mal engagé hein, parce qu'il y en a qu'un seul qui monte.
Oui, il y en a qu'un seul.
Donc voilà, donc on se rabat sur le PSG qui nous fait rêver quand même. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est une équipe incroyable.
Ah bah oui. Et alors là, en principe, bon, on aura l'occasion d'en reparler chez nos amis au bout du foot, mais c'est les deux meilleures équipes là, qui vont s'affronter. Ouais. Donc,
c'est une finale avant.
Donc là, ça va être un beau spectacle, hein, à pas louper.
Espérons-le. C'est un combat de coach, hein, pour moi. Avant les joueurs, c'est un combat de coach.
Ça peut jouer, oui.
Surtout que Compagny ne va pas être sur le banc du Bayern.
Il est suspendu.
Donc ça peut être c'est là où ça peut jouer. Hein.
Il est suspendu.
Bon, Théo, tu vois comment toi ?
Je suis totalement d'accord, ça va être un combat de coach parce qu'il y a quand même deux philosophies qui vont s'affronter et c'est surtout deux coachs qui demandent énormément à leur équipe parce que on est habitué donc au mouvement incessant au milieu de terrain avec Enrique et quand on regarde les matchs du Bayern, c'est la même chose, il y a énormément de dépassements de fonctions. Donc, hâte de voir dans l'impact physique, comment ça va se passer après la 60e, si les joueurs vont totalement oxy ou est-ce qu'il y en a une qui arrivera à prendre le dessus. Ça va être très compliqué et à savoir si notamment Vitinha sera à 100%, parce que ça va peser lourd dans la balance côté parisien. Si on veut gagner la bataille au milieu de terrain, ça va, à mon avis, ça se fera pas sans un Vitinha à 100%.
Stéphane, toi, comment tu vois ce match ?
Ah ben moi personnellement ce match-là j'ai hâte comme tout le monde c'est vraiment c'est une finale avant l'heure et puis oui mais non beaucoup de choses qui ont été dites notamment sur le combat combat des coachs quoi c'est un combat tactique avant même d'être un combat footballistique et donc moi franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match sachant que Oui, ça se joue au Parc des Princes à l'aller, mais le match retour aussi peut se passer beaucoup de choses à l'Allianz Arena.
Mais attention, c'est ce qu'on dit souvent, hein, on le dit, il y a à peu près plus de 50% des matchs où la qualification, on peut encore le vérifier sur les quarts de finale, se joue au match aller. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de qualifications qui se dessinent dès le match aller.
Après, c'est quand même plus confortable de recevoir...
Bien sûr.
Le match retour, même
si... Ouais, je sais pas, moi, vu ce qui s'est passé cette saison, notamment en Ligue Europa Conférence avec Strasbourg, j'ai tendance à me dire que risquer de limiter la casse à l'aller à l'extérieur pour ensuite envoyer la sauce à domicile avec son propre public, c'est un bon schéma aussi, hein, sur le plan tactique.
Et Strasbourg, peut-être une finale, Stéphane ?
J'y crois, franchement, j'y crois fort.
Sûr, bah oui.
J'y crois fort.
De toute façon, ils ont tout misé là-dessus. Hein.
Ils ont tout misé là-dessus, ils en ont les moyens, ils en ont les ressources mentales avant même de parler de football. Et je me dis que ce serait une excellente chose, en dépit du contexte extérieur lié à Blouko qui est très difficile à vivre. Ce serait une super nouvelle pour Strasbourg d'aller au bout de cette Ligue Europa Conférence.
Très bien. Eh ben, on dissertera tout ça donc dès la semaine prochaine. Si on veut venir rejoindre vos clubs de billard, que font-ils
Ils viennent, ils peuvent m'appeler ou plutôt.
C'est vrai que votre numéro inaccessible, je l'ai trouvé tout de suite. Voilà. Ce qui n'est pas toujours facile.
Voilà. Vous allez sur notre site web.
Sur la ligue.
Voilà, lbf11.fr. Vous trouvez mes coordonnées très facilement ou vous me faites un mail et je suis assez disponible.
Oui, et là, donc, vous renvoyez surtout les clubs de billard qui existent.
Oui. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. On n'a pas parlé, mais je lance un nouveau produit qui s'appelle Licence Flash, qui permet aux gens, pour 52 euros, de pouvoir naviguer de club en club et découvrir les clubs.
Ah d'accord. Voilà. Et comme ça, peut-être les différents styles de
billard. Voilà, et puis trouver son point de chute.
Est-ce que vous faites des opérations porte ouverte, Téléthon, ou avec les écoles
Là, c'est le travail de tout président de club. C'est de se montrer un maximum, de faire découvrir. Moi, j'accueille très régulièrement. Moi, je suis une maison Alfort, donc du coup, j'accueille très régulièrement des nouveaux. Je fais un petit coucou à Delphine, qui a fait son premier cours samedi.
C'est bien.
Voilà.
Oui, parce qu'en plus, vous initiez, je crois, à la pratique.
Moi, je donne des cours et si vous voulez, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette de président, je suis responsable sportif pour le carambol, je suis arbitre fédéral.
Ah! Ouais. Et ça se passe bien l'arbitrage, il n'y a pas de contestation.
Non, alors nous on est assez carré dans l'arbitrage. Voilà, c'est l'arbitre qui a raison et les joueurs qui doivent respecter, c'est tout. Hein. Mais on manque de bénévoles. On manque tout le temps de bénévoles.
Écoutez, j'espère qu'après cette émission tout ira bien. Merci en tout cas.
Je vous remercie. Hein.
Et puis Aristote, on va croiser les doigts. Donc voilà, qu'est-ce qui te reste là en un mois? Comment ça se passe? L'entraînement, on diminue, on travaille certaines choses plus que d'autres. On diminue parfois un petit peu les doses.
On travaille beaucoup la technique, très important. On fait des sparring pour se rapprocher au max.
Bien sûr.
Combat. Mm-hmm. Et voilà quoi.
Oui, mais la dernière semaine, on essaie de récupérer un petit peu mieux. Faut bien dormir aussi. Hein.
Oui, bien sûr, bien manger. Enfin. De façon équilibrée, prendre du poids, bien dormir.
Ah, c'est ça la difficulté, il ne faut pas trop manger et puis, il ne faut peut-être pas faire trop d'efforts la dernière. Oui, c'est ça. Et ça, je pense que quand on est à votre niveau, on connaît tous remarquablement bien son corps. Hein.
Et la dernière semaine, du coup, baisser par contre en intensité.
C'est ce que je veux dire, on sent. Ouais.
Pour pouvoir bien recharger les batteries et exploser le jour J.
Bon, écoutez, énorme merci en tout cas. Merci. Et puis, je réitère ce que j'ai dit, tu nous donnes le résultat.
Ça marche.
Quoi qu'il arrive, mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer.
On va tout faire.
Oui. Voilà. Écoutez, merci. Merci, messieurs, d'avoir été donc une nouvelle fois fidèles à cette émission, comme chaque lundi. On va laisser maintenant le témoin à nos amis au bout du foot. On va remercier Jason et Kerian donc, pour avoir été aux manettes ce soir. Belle soirée à toutes et à tous et on finit en musique, émission que vous pourrez retrouver naturellement en podcast, comme toutes les émissions Mon Paris Sport. Voilà, belle soirée à toutes et à tous et plus que jamais, vive le sport. Salut. Oui.
Merci à tous.
Merci.
Change une vie où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la vie.
Eh, je suis au volant dans ma caisse. Au fond rouge, je me demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la ville. J'ai refaire, contrôle et je repars. Pourtant, j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Yeah. Les embrouilles des schlags dans le bus de nuit. Le soir y'a de l'action donc jamais je m'ennuie. Je vais chez l'épicier, je viens me prendre un flash. Le soir au checker ça peut vite partir en clash.
La musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gères et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gères et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
3h du matin, dans les petites gâteries. Bonbon sur bonbon, aujourd'hui c'est Halloween. J'ai pas attendu le côté obscur pour avoir le flow de Anakin. J'suis défoncé toute l'année. À ce qui paraît, y'en a qui attendent le nouvel an. En vérité, abandonner n'est pas dans le vocabulaire. Déjà que tenter n'est pas suffisant. J'marche dans la ville, bonne et la 8. Quand il s'agit de mes billets, bébé, y'a pas de sentiment. Guette mes rétines, mes cicatrices. Comme le corps à Dolcim, mes histoires en disent long. Hier et aujourd'hui se ressemblent, mais demain sera sûrement différent. Les erreurs font grandir. J'ai un cœur de géant.
Yeah, la musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gères et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gères et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
La nuit dans Paris Sud, je pense en grand. Sais-tu ce que ça coûte de vivre quand les gens s'endorment? À travers la vitre, je vois les feux ensanglants et les gouttes de pluie.
Et je pense,
rien ne peut m'arriver, j'ai le cœur ensommeillé. Cette nuit, j'ai mal rêvé, la douleur m'a réveillé. Faire le pont de la Concorde et revenir à pied. T'aimais au-delà de ton corps, yeah. Penses-tu qu'un jour on ira mieux? Je rêvais d'avenir à Dieu. Vu qu'on pensait finir à deux, mais tire un trait à tout rater. T'inquiète avant de dire adieu, j'ai des prières à dire adieu. Je me tairai une fois enterré, mais la terre est irradiée.
À moi, tu es à noir, tout au fond de ma vie. Bienvenue dans la ville où les témoins n'ont jamais rien vu. J'ai fait tapiner ma Marie dans tout Paris Sud. Y'a mes enfants sur pas mal de ses murs et mon ADN sur pas mal de ses queues. J'suis sorti de la maison sans dire au revoir à maman et j'suis pas rentré de la semaine. J'ai perdu le sommet, juste mes semelles sur la route qui mène au sommet. La voix sans les cités HLM, flow et sale, y'a la flûte de la scène. Rêve de briller comme Paris la nuit, en spivant tes lèvres, j'suis le prince de la vie.
Paris Sud la nuit.
On est les princes de la vie. On est les princes de la vie.
M7.
On est les princes de la vie.
Senso Escrowboy.
On est les princes de la vie. La musique est sombre, le négro vient du fond.